Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le grand retour d'une grosse tête qui nous a beaucoup manqué. Il a été accueilli ce matin par tout le service comptabilité de RTL, Paul Elkarat. Une grosse tête ingénue à la radio et magique au théâtre, Valérie Mérès. Une grosse tête dont le papa avait descendu beaucoup de rouge, mais jamais en Russie, Michel Bernier.
Bonjour.
Une grosse tête qui aimerait voir l'Ukraine comme le théâtre où il joue tous les soirs, c'est-à-dire libre, François Berléand. Oh. Une grosse tête dont le sketch du colonel n'a jamais fait rire Poutine, Pierre Palmade. Et une grosse tête pour qui en 2022 ce sera du COBU président, Élie Semoun. C'est le titre du prochain film, non?
Comment? Si, du COBU président.
Ça va s'appeler comme ça.
Ouais, et ça devait sortir en avril. C'est con, on voulait faire ça pile poil dans les élections, mais on a été repoussé en juillet.
Ah oui?
Alors on aura déjà un président.
Je vais savoir patienter.
Oui, j'en suis sûr, Laurent. Oh, j'en suis certain. Enfin, il y a quand même notre ami Gérard Jugnot, non? Ça peut peut-être vous influencer pour aller voir le film.
Ah non, mais j'aime bien du COBU, attention.
Ah oui, oui.
Mais c'est ce que c'est.
Je préférais du Bocu, quoi. Voilà.
Ah bah, elle est bien, celle-là.
Elle est pas mal.
C'est marrant.
Elle est sortie
comme ça.
Oui, elle
vient
d'arriver. Elle est comme ça.
Saluons le retour de Paul Elkarat, qui a déjà quelque chose à dire. Oui, Polo.
Je dis que la blague, il l'avait déjà dit dans le bus, dans le premier du COBU, je crois.
Exactement. Exactement. Ah bah ouais. Donc voilà quelqu'un qui regarde.
Il se souvient même des dialogues des films d'Élie Semoun, alors là.
Si je te dois 300 balles, tu me le dis tout de suite. Hein. Je suis venu avec un peu de liquide.
Non, je te les donne et je te donnerai aussi de l'argent si tu veux.
Bon, vous êtes prêts, vous avez révisé tous vos dictionnaires, Polo.
Je révise pas souvent, moi. Les gens pensent que je suis matrixé avec les dates et tout, mais c'est des choses qui s'impriment en moi. Je les apprends même pas. En fait, donc oui, j'adore lire, donc j'ai continué à le faire. Mais le mois où je suis pas venu, je suis resté tout.
Un mois que vous n'êtes pas venu, vous vous rendez compte.
On a perdu de l'argent.
En tout cas, voici une première citation, un classique pour démarrer, pour Karine Sanchez qui habite Dinard dans l'Ille-et-Vilaine, qui a dit « Le mois de mars, je le dis sans arrière-pensée, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. »
Pierre Dac.
Non.
Ah, c'est joli.
Jean-Yann.
Jean-Yann, non.
Coluche.
Non.
C'était un poète.
Un humoriste.
Pierre Dac.
Non.
Ah non, j'ai
dit. Desproges.
Et c'est Pierre Desproges. Ah. Bonne réponse de Valérie Mérès. Une citation un peu plus compliquée peut-être quand même pour Daniel Rose qui habite Donzenac. Quand je dis un peu plus compliqué, c'est un euphémisme hein, parce que c'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, mais vous allez voir la phrase est hélas d'actualité, qui a dit « La stratégie consiste à continuer à tirer pour faire croire à l'ennemi qu'on a encore des munitions.
» Emmanuel Macron ?
Non.
Vous avez dit que c'était un euphémisme, c'est un spécialiste des euphémismes ?
C'est-à-dire
il a écrit un livre avec que des euphémismes.
Quelqu'un qui a fait ça.
Non, mais oui, bien sûr.
C'est quelqu'un qui était très malade.
Non, mais
je crois qu'il ne sait pas ce que veut dire le mot euphémisme.
Mais si, c'est des personnes qui défendent les femmes, c'est ça. c'est les euphémismes.
Alors, c'était un militaire qui a dit ça?
Un militaire, non, 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 non.
Mais c'est quelqu'un qui est mort?
Un caricaturiste, dramaturge, illustrateur.
Honoré Daumier ?
Non, Honoré Daumier, non.
Tristan Bernard.
Mais avouez que c'est joli quand même. La stratégie consiste à continuer à tirer pour faire croire à l'ennemi qu'on a encore des munitions. C'est totalement absurde et c'est quand même pas mal. C'est quelqu'un qui était né en 1799.
Ah oui.
Il est mort depuis un moment. C'est un Suisse, non ?
Non, il est né à Paris et il est mort en 1877.
Donc dans les gouvernements, près du roi ?
Non.
Ah, c'est peut-être celui qu'a créé M. Auguste Prud'homme et donc c'est Henri Monnier.
Excellente réponse.
T'aurais mieux fait de rester chez toi. Hein.
Le raisonnement est assez logique.
Ah voilà.
Pour moi, Henri Monnier, c'est une rue à côté
oui,
de moi.
Oui, c'est ça, j'allais dire. Il y a une petite place formidable avec plein de
créé le type de bourgeois complètement stupide, idiot, qui s'appelle Auguste Prudhomme. C'est une caricaturiste.
Exact, je savais même pas qu'il s'appelait Auguste, mais Monsieur Prudhomme, effectivement.
Monsieur Prudhomme.
C'est le personnage qu'il jouait au théâtre.
Bourru un peu.
Un personnage grassouillé, conformiste, imbécile. Et effectivement, ce personnage était joué par ce caricaturiste, dramaturge et acteur, Henri Monnier. Écoutez, c'est le grand retour de Paul Elkarat.
Par la grande porte.
Une citation pour Gilles Puot, qui habite Saint-Génis-Laval, dans le Rhône, qui a dit « Mourir pour une cause ne fait pas que cette cause soit juste ».
Georges Brassens,
et si on gagnait du temps en donnant les dates, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui,
laissez-nous trouver.
1895-1972.
Un académicien?
Ah oui, je crois qu'il a été académicien, effectivement.
Ah, alors ça m'aide pas du tout.
Ah oui.
c'est Henri de Monterland.
Excellente réponse de Paul Elkarat.
Oh là là là.
Mais en plus, tu dis que tu nous as expliqué que tu n'avais aucun mérite à savoir tout ça. Que ça s'imprimait dans ta tête.
Oui, oui.
Bah donc, t'es un salaud. Voilà. C'est une arnaque.
C'est
du charlatanisme, monsieur. Parce que vous avez imprimé des informations dont vous ne savez même pas de quelle utilité c'est. Moi-même, regardez, j'en perds mes mots.
Monsieur, la prochaine fois, imprimez vos phrases. Voilà. Pour Maxime Dubois, qui habite Cauche dans le Jura, qui a dit « On tombe amoureux, et comme toujours, quand on tombe, on se fait mal. » C'est joli, non?
Philippe Bouvard.
Et c'est un auteur contemporain qui est mort il n'y a pas longtemps, il est mort en 2019.
Il était dramaturge?
Ah, dramaturge, non, romancier. Académicien Goncourt, d'ailleurs.
Pas académicien, pardon.
Prix Goncourt, et il a été membre de l'Académie française, mais peu de temps, 10 ans seulement.
D'Ormesson?
Non.
Prix Goncourt?
Oui, Prix Goncourt, monsieur. Pour 3 jours chez ma mère.
Jean-Loup Davadi?
C'est François Villergance.
Excellente réponse de Paul Elkarat.
Ça sert à rien du tout. Hein.
Quoi? Qu'est-ce que vous dites?
Non, mais on sert à rien du tout.
Non, mais il y a
De toute façon. Bah, je le sais que vous allez dire. J'ai décidé, ta gueule, avec tout le respect que je te dois,
il est mort.
D'être le président de l'association des personnes qui sont contre toi. Tu ne nous laisses pas parler, tu ne nous laisses pas dérouler notre culture qu'on n'a pas d'ailleurs. Donc, non, moi, c'est un scandale.
Pour Yvette Allaire, qui habite Cuiseau, c'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, et qui a dit « Une chose n'a pas une valeur parce qu'elle coûte, comme on le suppose, mais elle coûte parce qu'elle a une valeur. »
Grand philosophe.
C'est un économiste, philosophe, écrivain.
Jean Baptisé?
Non, académicien, écrivain, philosophe, né à Grenoble d'ailleurs.
Mazarin,
c'est bon, je l'ai.
Ah bah oui, c'est Michel Fugain.
Étienne Bonneau de Condillac.
Étienne Bonneau de Condillac. C'est une belle rentrée de Paul Elkarat. Bravo Polo.
C'est le terminus de la ligne C du tramway de Grenoble.
Laurent, est-ce qu'on pourrait faire des questions avec des gens qui ont fait les Carpentiers?
Ouais, c'est ça,
s'il te plaît.
Une question pour Clément Demarcy qui habite Crevin en Ille-et-Vilaine. Comment l'unité des forces spéciales de parachutistes située à Orléans-Brissy, on va même dire le commando parachutiste de l'air numéro 10, a-t-il eu une publicité très visible?
C'était dans une publicité dans un clip?
Non, le commando parachutiste de l'air numéro 10 vient d'avoir une publicité étonnante, laquelle?
Mais plutôt à leur avantage?
Pardon?
Plutôt à leur avantage?
Oh, oui, bien sûr.
Oui, ils ont posé à poil pour un calendrier. Je reprends la question.
Non.
Ils ont perdu leur pantalon en sautant?
Non, ils ont perdu leur parachute.
Ils ont perdu leur parachute.
Vous avez vu beaucoup de parachutistes perdre leur pantalon en sautant?
Mais c'est un rêve occasionnel.
C'est un rêve, c'est ça.
Voilà.
Un fantasme.
Ils ont le nom de quelqu'un de très connu?
Non plus, non.
Sur chaque parachute, il y a un morceau de mot.
Un morceau de mot?
Oui, par exemple.
Vous voulez dire une syllabe, peut-être?
Voilà. En fait, ils sont en charade.
Ouais,
voilà.
C'est ça.
Ah oui, ça forme un mot s'il y a plusieurs parachutistes.
Voilà.
Une lettre sur chaque parachute.
Ouais, ça serait génial.
C'est le commando Scrabble.
Non.
Ils ont fait une vidéo virale?
Alors, une vidéo virale. Là, monsieur Palmade, effectivement, vous faites progresser, si ce n'est la question, au moins la réponse, parce que, effectivement, la vidéo où on voit leur nom est devenue virale, oui.
Ah, elle a été vue des millions de fois.
Ah oui, oui.
D'accord.
Mais c'est quoi cette vidéo?
Virale, ça veut dire ça
rapporte. Ah, c'est à cause de leur nom que c'est, que on cherche.
Ah, oui, effectivement, leur nom. Alors, je vais vous donner peut-être une petite indication supplémentaire. On les appelle le CPA-10, ce commando parachutiste de l'air numéro 10.
Ils n'ont pas fait un truc qui fait honte, genre une beuverie ou...
Ah non, pas du tout. Non, 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 mais ils n'ont rien fait. La publicité qu'il leur est faite, eux, ils n'y sont pour rien. Mais j'imagine qu'ils étaient contents, effectivement.
Macron, peut-être. Macron, le président Macron.
Comment il aura fait de la publicité?
Ben, c'est la question que je
pose. Avec son sweatshirt, là.
Avec sa casquette. Excellente réponse de Valérie Mérès. La vidéo est devenue virale. On voit le président de la République en sweatshirt. Vous n'avez pas vu ça?
Ah non.
D'habitude, il est toujours en chemise ou en costume, le président.
Oui, oui, là, il est.
Et
en...
là, il est en sweatshirt.
Ah, mais à l'Élysée.
Ah, bah oui, avec à l'Élysée, oui, c'est là où il crèche.
Ah, oui.
Effectivement, il portait un sweatshirt marqué CPA-10. C'est un sweatshirt qui lui avait été offert par le commando parachutiste de l'air numéro 10. Il était allé les voir au mois de janvier 2020. Il a dû garder le sweatshirt
dans un placard. C'est sympa de garder ça. Il ne change pas beaucoup, Manu. Alors,
pourquoi ?
Il a les mêmes t-shirts. Alors.
Bah non, mais bah, à l'Élysée, il doit y avoir plusieurs placards.
Oui, son petit placard.
Il y a une nuit blanche, paf.
Je vais lui envoyer un t-shirt du Cobu président.
C'est pas mal pour la sortie du film.
C'est
une belle pub, avouez.
Bah, il y a peut-être un petit clin d'œil militaire aussi.
C'est-à-dire
à Poutine, on a des parachutistes, nous aussi. Oui. On a des guerriers, nous aussi.
Ah oui, c'est ça, c'est genre, je vais moi-même sauter sur Moscou, quoi.
Ouais, par contre, si le parachutiste, il se coince sur la basilique du Kremlin comme en 44, c'est pas la peine, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé en 44?
Vous savez...
C'était quel jour?
Sainte-Marie-l'Église, là, il y a un parachutiste anglais qui s'est coincé.
Ah, c'est pas au Kremlin.
Oui, mais si nos parachutistes se coince dans les tours, ça va être sympa.
Ah oui, oui, oui.
Ah oui, oui.
Bon, ah, c'est...
Non, ah, bah non, c'était
une blague, c'est une blague historique,
eh bien,
mais personne ne me suit,
c'est pas
grave.
En tant que président de l'association anti-Paul, je suis ravi d'entendre qu'il peut dire aussi des conneries.
C'est pas des conneries. Une question pour Sarah Flèche, qui habite Longjumeau dans l'Essonne.
Ah.
Monsieur Duchemin a eu deux frères qu'il n'a jamais connus parce qu'ils sont morts avant sa naissance. Mais qui est monsieur Duchemin dont toute la presse nous parle en ce moment?
Ce serait le nom de Poutine en français. Poutine.
Excellente réponse, oh, François Berléand.
Bravo.
Eh oui.
Enfin, comment tu sais?
Comment je suis bien à la maison.
Vous parlez russe.
Je parle russe, oui.
Et oui, et ben oui, parce que du chemin, effectivement, Poutine, en russe, ça veut dire chemin. Enfin, plutôt put, ça veut dire chemin, et in, ça veut dire du. Et si on traduit Poutine, c'est en fait comme un monsieur du chemin.
Ça fait moins peur, hein.
Ah oui.
Ah oui, oui. Non, mais oui. Franchement.
Non, mais.
Je suis le monsieur du chemin, je vais faire la guerre. Bon, écoutez, du chemin, foutez-nous la paix, cassez-vous.
C'est vrai qu'on devrait l'appeler monsieur du chemin.
Franchement, ouais, oui, ça fait moins peur.
Et monsieur du chemin, donc Vladimir Poutine, a eu deux frères, Oleg et Victor. Oleg Poutine et Victor Poutine, qui sont nés dans les années 1930, alors que lui, il est né en 1952 et ils sont morts en bas âge. Ses parents, à Poutine, ont perdu deux enfants avant de l'avoir eu.
Ah bah c'est pour ça qu'ils
ont
été traumatisés.
Mais
il a été traumatisé avant même de naître.
Mais non, mais ce qui est vrai, c'est que il est né tardivement parce que sa maman, à Poutine, Mme Poutine mère, elle avait 41 ans.
Oui. Ah oui, quoi. Comme quoi. Hein.
Donc
attention.
Il est arrivé tardivement.
Ça a été leur miracle.
Comme quoi, au bout du chemin, il y a parfois la guerre.
Ouais, voilà.
Voilà, je vous remercie de noter.
Alors restons au Kremlin, bravo, si vous le voulez bien, pour Grégory Moll, qui habite Alès, dans le Gard.
Ah,
en effet, en 1812, le Kremlin servit de résidence à Napoléon. Eh oui, Napoléon Ier,
brûler,
dont les troupes occupaient Moscou. Et Napoléon a demandé à un maréchal de faire sauter la forteresse, de faire sauter le Kremlin. Ce qu'il a fait d'ailleurs, ce maréchal. Mais comment s'appelait-il ?
Nous voilà.
Oui.
Maréchal, nous voilà.
Jean-Marie, nous voilà.
Ah, Molotov, cocktail Molotov.
Non, un maréchal français, hein, évidemment.
Maréchal né.
Cambronne.
Cambronne, non. Il a été tué dans un attentat.
Ah, mais c'est. Ah, ben ça y est, oui, un attentat par Fieschi.
Exact.
C'est Adolphe Mortier.
Adolphe-Édouard Mortier, qui connaît tous les prénoms. Excellente réponse. Le maréchal.
Eh ben, comme quoi, son nom Mortier, avec un mortier, on fait des explosions quand même.
Vous avez raison.
En fait, il passait sur l'avenue du Temple, il y a une machine infernale qui a explosé, et il y a eu plusieurs dizaines de morts. Et je parle de l'attentat de Fieschi dans mon livre, et maréchal Mortier est mort sur le coup. Alors que
c'est
la
toi
famille,
la machine infernale.
il accompagnait Louis-Philippe.
Oui, c'est ça. Voilà. Louis-Philippe qui a eu quelques égratignures comme ses fils.
Et lui, il
a pris plein la gueule.
Louis-Philippe a survécu à cet attentat, alors que le maréchal Mortier, celui qui avait brûlé le Kremlin, lui, il en est mort. Encore une bonne réponse. Dans un instant, on aura au téléphone Monsieur Yamaguchi, qui, attention, est devenu champion du monde, Monsieur Yamaguchi. Mais champion du monde de quoi depuis hier?
C'est culinaire?
C'est culinaire.
Ah, il a mangé plein de sushis.
Pas du tout, non, c'est son art de la gastronomie, c'est un grand chef.
C'est un lancement de produits?
Alors, pas un lancement, c'est une Coupe du Monde.
C'est pas la meilleure baguette?
Alors, la meilleure baguette, non.
C'est quelque chose qui fait très très vite.
Ah, c'était pas une question de temps, même si les candidats et les participants à cette Coupe du Monde n'avaient que 20 minutes pour réaliser ce qu'ils avaient.
Est-ce que ça a un rapport avec la cuisine japonaise ou pas du tout?
Pas spécialement.
C'est un gâteau.
Est-ce que c'est sucré ou salé?
Je dirais même, c'est plutôt français.
C'est sucré?
Et c'est salé.
Monsieur, c'est salé.
La meilleure choucroute?
La meilleure choucroute, non.
La meilleure blanquette?
La blanquette, non plus.
C'est chaud?
Alors non, ça se mange plutôt froid, cette affaire-là.
La meilleure soupe?
Le saumon fumé.
Le saumon fumé, non.
Le meilleur tartare?
C'est une entrée?
Alors c'est plutôt une entrée, effectivement.
Le meilleur carpaccio?
Un vol au vent. L'œuf mayo?
Non.
La salade russe?
La salade russe, non.
La meilleure salade César?
Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans les restaurants ou pas?
Alors c'était plutôt, je crois me souvenir, pour ceux qui ont eu ou la chance ou la malchance d'aller à la cantine ou dans les restaurants d'entreprise, c'est quelque chose qu'on avait plutôt, voilà, à la cantine.
Le céleri rémoulade.
Bonne réponse de François Berléand. Bonjour Monsieur Yamaguchi.
Bonjour Roland.
Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier votre céleri rémoulade pour que vous ayez gagné contre les autres chefs? D'ailleurs, combien vous étiez à participer à cette Coupe du Monde du céleri rémoulade?
On était 8 à la finale hier.
À 8 quand même. Et alors vous, pourquoi vous savez faire aussi bien le céleri rémoulade, Monsieur Yamaguchi?
Ben, je pense que franchement, ce qui a fait la différence, c'est vraiment la qualité de céleri que j'avais et que j'étais allé chercher juste la veille à la ferme, que j'ai détraillé à 16h.
Ah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est votre céleri qui était meilleur que les autres céleris.
Je pense. Hein.
Ah bah écoutez, c'est modeste.
Et la rémoulade compte quand même.
Exactement, c'est modeste de votre part, mais outre le céleri, il faut quand même effectivement faire une rémoulade. Alors comment vous la faites-vous, Michel?
Jamais.
Moi je fais avec de l'huile, de la moutarde, beaucoup de moutarde.
Et de la mayonnaise quand même.
C'est la mayonnaise en fait.
Alors la vôtre, elle est comment de rémoulade, Monsieur Yamaguchi?
En fait, ma sauce, c'est fait avec justement les œufs de poule qui vivent dans la ferme où j'ai récupéré mon céleri, avec, je sais pas, plein de trucs vraiment frais qui vient de la ferme, qui a beaucoup de goût. Je pense que ça fait vraiment beaucoup de différence.
Est-ce que, comme moi, vous y mettez des cornichons?
Oui, à la fin.
Ah, bah voilà.
Ah, vous mettez des cornichons à la fin.
Alors moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, ce sont les capres. Est-ce que vous y mettez des capres?
J'ai pas mis les capres, mais j'ai mis les bourgeons de pissenlit à la place.
Aïe.
Les bourgeons de pissenlit,
c'est malheureux. Je vous aurais pas donné la victoire.
Les bourgeons de pissenlit, c'est très bon. Hein.
Oui, mais moi, je préfère les capres, alors. Vous avez gagné haut la main contre vos 7 concurrents, Monsieur Yamaguchi?
Non, franchement, non, ils étaient tous géniaux. Chacun, ils faisaient des choses différentes. Franchement, c'était cool. Mais franchement, ce qui a fait la différence, c'est vraiment la qualité de travail des maraîchers, ça, c'est sûr.
Vous avez un restaurant, Monsieur Yamaguchi?
Actuellement, non, mais je suis en train de préparer un projet végétal pour très bientôt dans Paris.
Et vous y ferez un céleri rémoulade, alors?
Mais bien sûr.
Évidemment.
Mais on peut le manger où, son céleri rémoulade?
Bientôt.
On va venir chez vous, alors, manger le céleri rémoulade en attendant.
Ouais, on va vous entendre.
Bah, écoutez, vous êtes très aimable et très gentil. J'ai envie de dire bravo pour ce,
ah oui.
Cette Coupe du Monde. Vous le faites, vous, Valérie ?
Alors, moi, j'essaye de le faire sans huile.
C'est-à-dire ?
Donc, c'est compliqué parce que ça ne fait pas de mayonnaise.
Ah, oui, c'est ça.
Donc, et du alors, coup, c'est pas très bon, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est du céleri par émoulade.
Oui, c'est du céleri.
C'est dégueu,
mais par contre, tu peux gagner la Coupe du Monde du céleri par émoulade.
On va faire une Coupe du Monde du céleri par rémoulade. Mais... Et le céleri rémoulade sans céleri, je vous le conseille aussi. Alors. Tant qu'on y est. Monsieur Yamaguchi, bravo, vous êtes le vainqueur de la Coupe du Monde de ce céleri rémoulade. Que la... Écoutez, que le monde entier nous invite.
Ah, oui.
Moi, j'avoue que, au fond, c'est pas vrai. Dans le céleri rémoulade, ce que je préfère, c'est les capres. Vous me donnez des capres sans céleri rémoulade et je serai le plus heureux du monde.
Tout
le monde
c'est dégueulasse, les capres.
Tout le monde...
Oh, c'est bon, les capres.
Oh, c'est bon, les capres.
Comment vous pouvez aimer ça?
Bah, tirez la langue pour voir.
C'est amer. Non. C'est amer, non?
Mais c'est pas du tout.
C'est ouais. Délicieux, les capres. Il n'y a rien de meilleur.
Une raie au capre.
C'est un petit goût acidulé,
ah oui
plutôt.
Une raie moulade.
C'est les
capres. J'en ai, vu aux champignons. Ça se passait où, la Coupe du Monde, monsieur Yamaguchi?
Dans le 17e, à côté de Wagram.
Très bien. Dans le 17e arrondissement de Paris, on vous félicite, on vous applaudit. Bravo pour votre céleri raie moulade.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Avec Valérie Mérès, Michel Bernier, François Berléand, Pierre Palmade, Élie Semoun et Paul Alcarat. Pour Gaëlle Arc, qui habite Port-Louis, dans le Morbihan, la première question littéraire du jour. Oui, Port-Louis.
Ah, je crois que c'est l'île Maurice.
Ah, non, mais il y a un Port-Louis aussi dans le Morbihan. Et la question, attention, la question est difficile parce que je vais vous demander, c'est qu'en ce moment, RTL est associé au Figaro pour cette nouvelle collection des prix.
Goncourt.
Des prix Goncourt qui sortent.
Bon, bah, ils les connaissent tous.
Tous les 15 jours. Et là, je vais vous demander quel Goncourt c'est le plus vendu de l'histoire des prix Goncourt au moment de sa première publication en grand format.
C'est l'hôtelier.
Non, pas du tout.
Alors, c'est Duras. C'est le 20e siècle.
Alors,
c'est
on est au 20e siècle.
C'est Romain Gary, non ?
Ce n'est pas Romain Gary, ce n'est pas Duras. Ça qui est étonnant d'ailleurs, parce que le Goncourt qui s'est le plus vendu, autant vous dire, moi, je ne connaissais ni son titre, ni l'auteur.
Ah bah alors nous, ça va être non plus. Oui.
C'est quoi le titre ?
Il a non, le titre...
Ah non, pardon,
c'est
non,
la question.
Mais cet auteur, il a continué à écrire après ou pas ?
Alors non, il a eu un peu de mal. Il a confessé des années plus tard que l'obtention du Goncourt a été pour lui un poids dans la suite de sa carrière d'écrivain.
Ah. Et mais tous, hein.
Ah oui, mais lui, je crois qu'il n'a jamais fait d'autres livres ensuite.
Et il a fait autre chose ? On le connaît pour autre chose ?
Ah bah non, on le connaît parce qu'il a eu le prix Goncourt en 1972. Et ça s'est vendu à l'époque à 2 millions d'exemplaires les mois suivants.
Ah, je sais.
Plus que l'anomalie d'Hervé Letellier.
C'est Henri Duralex pour le mur de silence. Je suis comme Paul Elkarat.
Vous inventez des...
Ah, Henri Duralex, c'est pas le mec qui faisait des verres et des assiettes ?
Moi, j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Le Goncourt...
Il a été adapté au cinéma ?
Alors, non. Ça n'a
Jean-Louis Curtis.
Ça n'a pas été adapté au cinéma.
Jean-Louis Curtis.
Jean-Louis Curtis, non.
Mais s'il n'a fait Curtis, qu'un livre et que ça n'a pas été adapté au cinéma, on le connaîtrait pourquoi ?
Ah bah on le connaît pour son prix Goncourt et peut-être l'histoire du livre. Vous voulez que je vous raconte un peu ?
Ah oui.
Alors après le départ de son frère Samuel, Abel reste un des derniers habitants du hameau. Ah, je vais pas vous donner le nom du... Ah bah si, je vais vous le donner parce que c'est une partie du titre. C'est un des derniers habitants du hameau de Maheu dans
l'épervier de Maheu.
Oh, comment vous savez ça ?
Bah parce que je l'ai lu à l'époque.
Eh ben c'est l'épervier de Maheu. Bravo. Jean Carrière, à ne pas confondre avec Jean-Claude Carrière. Jean Carrière est le Goncourt qui s'est le plus vendu de tous les Goncourts avec l'épervier de Maheu. Mais vous avez lu ça quand, Michel, alors ?
À sa sortie, non ? C'était en quelle année ?
72.
Ben voilà, j'étais...
T'as un bon souvenir de ce bouquin ?
Maintenant, un premier roman qui s'appelle La Belle Lurette. Mais à qui doit-on La Belle Lurette ? Un roman publié en 1935.
Et c'était son premier, il l'a écrit à quel âge ?
Ah, il a écrit... Ah, oh. Il est né en...
Non,
faut pas dire la naissance.
Oh, il est né en 1904. Alors, vous voyez, il avait 31 ans.
Mais c'est un Français.
Un Français, oui.
Marcel Aimé ?
Journaliste, homme de radio, libertaire, anarchiste.
Libertaire.
Léo Campion.
Cossimon, non ?
Jean-Roger Cossimon. Non.
Mais il est très connu, ce monsieur.
Ah, il est très connu, on l'a déjà cité ici, parce que il a une phrase phrase qui est devenue très très célèbre sur les larmes et les pleurs. J'essaie de la retrouver d'ailleurs parce que de mémoire je ne voudrais pas écorcher cette célèbre phrase, mais c'est quelqu'un qui effectivement a écrit de très jolies choses.
Ah, il a écrit des poèmes aussi ?
Alors poète aussi.
Blaise Cendrars.
À son heure, mais surtout journaliste.
C'est pas Blaise Cendrars ?
Ce n'est pas Blaise Cendrars. Un romancier, nouvelliste, mort avance en 1956. Et donc, voilà, il est mort jeune, à 52 ans, rendez-vous compte. Ah oui.
On le cite beaucoup, on cite beaucoup de ses phrases.
Ah, oui, parce que, par exemple, dans les citations, M. Pierre Bénichoux, quand il était parmi nous et il nous manque, connaissait très bien cet auteur, car c'est toujours lui qui retrouvait son nom.
Paul Valéry ?
Paul Valéry, non.
Pierre Bachelet ?
C'est le côté libertaire.
Il s'appelle Louis, Paul.
Ah non, il s'appelle pas Louis, Paul.
Est-ce qu'un prénom, ça m'aide ?
Ah bah, un prénom, ça vous aide, mais enfin, on n'en est pas quand même à vous donner les prénoms, monsieur.
On te donne déjà les dates ?
Je sais plus. Je crois
au moins le nom, alors.
Ouais, soyez sympa.
Au moins le nom de sa mère.
Et la fameuse phrase, c'était « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. » Très jolie phrase.
C'est beau, ça.
« Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. »
Il est mort à 52 ans.
Je la connais, cette phrase. Elle est très connue, cette phrase. « Ne me secouez pas. »
C'est joli, avouez. Hein. « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. » C'est à lui qu'on doit effectivement cette très jolie phrase.
Orangina ah,
Jacques, Jean, Pierre.
Vous voyez, monsieur Semoun, là vous
c'est
pouvez.
C'est lamentable.
Non, vous prouvez votre utilité, ça m'a fait rire. Ça m'a...
Albert, Robert.
Depuis le début, je ne sers à rien, quoi, d'accord.
Non, pas du tout. Je trouve
très bon.
Au contraire, très en forme aujourd'hui.
Merci, mon cher
particulièrement
Laurent.
Même.
Merci.
Peut-être comme jamais en 5 ans.
Oh oui, c'est ça. Ça, il manquait plus.
Raymond.
Quoi, Raymond ? Non, non, non.
Gilles ?
Non, non, non.
Alfred,
non,
Albert, non. Roger ?
Cesbon, non.
Non, 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 non. Bah, écoutez, c'est dommage, hein, on va perdre 300 euros. Et
Paul ?
Non, non plus.
Aaron Queneau ?
Non, 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 non. Le tout sur le tout, une autobiographie.
Il est dans le dictionnaire ?
Giono ?
Giono, non. Son premier roman, La Belle Lurette. Un joli titre, quand même.
Isaac ?
Ouais.
Non, non, non. Eh ben, écoutez, on va donner 300 euros.
Il y a peut-être...
Et voilà, c'est fait. Cyril Comte à la Seyne-sur-Mer, dans le Var, touche 300 euros. Est-ce que quelqu'un aurait son nom dans la salle ? Eh ben non, écoutez, personne.
Personne.
C'est là qu'on voit que Pierre Bénichoux nous manque encore plus. Ouais. C'était Henri Calais.
Oh,
Henri Calais, auteur de La Belle Lurette. Et c'est vous, effectivement, qui avez Calais.
Ouais.
Désolé. Mais c'est bien, on distribue un peu d'argent. Ah, une question musicale. Et là, attention... C'est contemporain, vous n'allez pas m'accuser de faire des questions trop difficiles. C'est quelqu'un qui célèbre ses 60 ans aujourd'hui. Oh, je peux même vous donner son nom d'ailleurs, mais curieusement, on le connaît peu ou on le connaît mal sous ce nom parce qu'il a changé de nom. Vous savez, dans une carrière, parfois c'est comme ça, on change son nom d'artiste. Maintenant, on doit l'appeler Sananda Maitreya. Il vit en Italie aujourd'hui, Sananda Maitreya, et c'est 60 ans, voilà pourquoi, s'il nous écoute, on ne sait jamais, en Italie, on peut lui souhaiter un bon anniversaire. Il a fait quelques tubes extraordinaires, mais de qui s'agit-il ?
Ah,
il est
bon ?
Né à New York, et puis il est venu faire carrière en Europe.
Charlie Couture.
Charlie Couture, non, non, non.
Enfin, non, il a changé.
Il s'est établi à Londres dans les années 80, et puis...
Il chante en français ?
Il a fait, non, il chante
en anglais,
en anglais, américain, si vous préférez, ou en anglais. Et c'est vrai qu'en 2001, il a décidé de changer son nom légal et artistique. Et depuis, il s'appelle Sananda Maitreya. On entend beaucoup moins parler de lui, même s'il a encore fait des concerts l'année dernière, en 2019. Il a fait une tournée au Japon, en Italie, en France, en Espagne. Et il a un tube très, très, très connu. Enfin, plusieurs même.
C'est pas genre Murred ou...
Donovan, non.
Il s'accompagnait d'un instrument ou
pas ? Il était multi-instrumentiste, à la fois guitare, piano, basse, percussion.
Ah oui, quand même.
Il a fait du jazz, du funk, du reggae, du R&B, de la musique soul.
Frank Zappa.
Oh là ! Frank Zappa, non.
Ce sont des tubes qui nous ont fait danser.
Ah, vous voulez que je vous en passe un ?
Ah oui,
ça va peut-être vous aider, alors écoutez-le.
Phil Collins ?
Ah oui !
Ah, vous ne pouvez pas me dire que vous ne connaissez pas ça.
Si, on le connaît, évidemment.
Il est noir.
Évidemment.
Ah oui, il y a des chances. Oui.
Il est noir.
Bah, si, noir, je ne veux pas dire black. Est-ce qu'il a couché avec Vanessa Paradis?
Non, vous pensez
Lenny Kravitz.
À Lenny Kravitz.
Non. Imagination, celui qui faisait Imagination.
Non, non, on continue à nous y passer, ça meuble. Hein. On ne m'accusera pas de ne pas faire quand même questions plus contemporaines, vous voyez.
J'ai fait l'amour là-dessus en plus.
Mais quel était le nom de la personne?
C'était Eric, je me souviens. Mais c'est pas ça qu'il
faut retrouver. Eric Burden.
C'est pas ça.
Il a changé de nom depuis aussi. Vous en voulez un autre?
Ouais,
on peut vous aider.
Oui, j'en veux un autre.
À la demande.
On est nul.
Terence Prince d'Arby.
Bonne réponse de Michel Bernier.
Ça, c'est super
cool. Terence Trent d'Arby a 60 ans aujourd'hui. C'est vrai qu'on l'a un peu
déjà
oublié.
Eh oui, c'est vrai. Moi, j'aimais bien, moi.
60 ans, Terence Trent. On ne doit plus l'appeler comme ça. Il s'appelle plus Terence Trent d'Arby. Bah, ce qui lui a pris de changer de nom, croyez-moi, ça ne change pas grand-chose, puisque de toute façon, vous ne vous souveniez pas du premier non plus.
Oui, mais je peux poser la question.
Il a voulu vivre peinard en Italie.
Ah ouais.
Attention, une autre question. Chaque troisième samedi du mois de mars, et ce sera le cas samedi prochain.
On change d'heure.
C'est une question pour Mireille Osni. Alors, je suis pas sûr, on change d'heure samedi prochain.
Non, c'est l'autre.
Non, monsieur Berlin.
Pour Mireille Osni.
Ne me dites pas n'importe quoi, monsieur Berlin.
Il bougonne maintenant.
Vous pouvez changer d'heure si vous en avez envie en même temps. Ça fera une surprise au théâtre. Non, chaque troisième samedi du mois de mars a lieu la Primavera. Mais qu'est-ce que la Primavera?
Le printemps.
Les changements d'heure, non?
La première lueur.
Non, mais la Primavera, c'est quelque chose qui a lieu chaque année.
En Italie.
Alors en Italie, oui.
C'est une exposition?
On ne peut rien vous cacher, c'est en Italie.
En italien, ça veut dire la première fois?
Alors en italien, ça veut dire printanier, Primavera, du printemps.
Ça se passe à Sienne?
Ça se passe pas à Sienne.
À Rome. Et est-ce qu'il y a ça dans les autres pays sous un autre nom?
C'est compliqué de vous répondre.
L'été indien.
Non, c'est la
carnaval.
Le carnaval, non.
Est-ce que c'est à Rome?
La Mostra de Venise.
C'est pas à Rome, non.
Non,
c'est à Venise.
C'est une exposition?
À Milan.
Ce n'est pas une exposition.
C'est un truc avec des chevaux.
Un défilé de mode.
Avec des chevaux à Sienne.
Avec des chevaux, non.
Un défilé de mode à Milan. Alors Milan, c'est la capitale de la.
Alors un défilé de mode, non, mais vous avez une partie de la réponse.
À Milan, c'est à Milan.
Un défilé militaire.
Non.
Un défilé de vélo.
Non, c'est la voiture.
Ah, c'est les vélos, C'est.
C'est le Milan San Remo.
C'est le
Milan San Remo.
Le Milan San Remo. Bonne réponse de François Berléand, aidé par Élie Semoun et Valérie Mérès.
Il faut les prévenir qu'ils ne partiront pas à l'heure, hein, François.
Et il y a également le changement d'heure, qu'on appelle changement d'heure.
Le changement d'odorat.
C'est une grande classique, évidemment. C'est même peut-être la première de la saison cycliste, la Primavera.
C'est pour ça que ça s'appelle la Prima.
Qu'est-ce qui va gagner 6 mètres aujourd'hui?
Ah, une tour?
C'est la question suivante pour Anthony Gauthier d'Espira de la Gly.
Une tour à Dubaï?
Alors une tour, oui.
La plus haute du monde.
À Dubaï?
À Dubaï, non.
Sera-t-elle la plus haute du monde?
Non,
après
pas pour autant, mais elle sera plus haute de 6 mètres en
France. Tour Montparnasse? Ça a à voir avec
la tour Montparnasse, oui c'est ça.
La tour Eiffel?
Non. Et c'est la tour Eiffel, simplement.
Ah ouais.
Bonne réponse de Michel Bernier. Et oui. La Tour Eiffel va gagner 6 mètres aujourd'hui.
Ah bah.
Parce qu'on y met une antenne. Radio, une nouvelle antenne au sommet. C'est pour capter le réseau DAB, vous savez, Digital Audio Broadcast. On change l'antenne de la Tour Eiffel aujourd'hui. C'est un hélicoptère qui va.
Ah, dis donc.
Ah, oui.
Pas...
Ça va être beau à voir.
Je sais pas si on va pouvoir voir la manœuvre aujourd'hui.
C'est des parachutistes qui font ça, tu vois.
D'Orléans.
Et ils perdent leurs pantalons et ils mettent le
truc en l'air. C'est dangereux. Au-dessus de la Tour Eiffel.
Non.
Les Parisiens vont voir un léger changement. Bon, alors il faut évidemment bien regarder au-dessus, hein, mais c'est vrai que voilà, ça fera 6 mètres de plus, c'est pas rien. Alors combien de mètres au total, à votre avis? On va voir.
321 mètres.
Alors on en était à 324 et maintenant elle fera 330 mètres, la 324. Tour Eiffel. Et ça permettra à Monsieur Plaza de vendre encore plus d'appartements parce que comme elle sera plus haute, on la verra encore plus. Vous voyez là, on peut voir le haut de la Tour Eiffel. C'est un grand classique chez les agents immobiliers. Avec 6 mètres de plus, ça fait plus d'appartements vendus.
RTL, le livre du jour.
Au téléphone, dans un instant, quelqu'un que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Alain Bauer, qui a eu parfois des fonctions...
Criminologue.
Pardon ?
Criminologue.
C'est la bonne réponse, merci monsieur. J'allais vous demander, parce que monsieur Bauer est professeur, voilà, et de quelle matière est-il professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers ? Il est professeur de...
criminologie.
De criminologie. C'est une bonne réponse que vous m'avez donnée avant ma question.
Et mais vous pouvez en donner une autre ?
Non, parce que on va s'intéresser plutôt à son livre, parce qu'il est amusant. Il a fait des tas de livres sérieux, monsieur.
Les morts à la con.
Mais là, effectivement, il publie les criminels les plus cons de l'histoire.
Voilà, ça a l'air bien.
Ce que je viens de dire,
les cons. Ah, ben ça, c'est amusant.
Les cons de l'histoire.
C'est ça. Bandits, avocats, témoins, procéduriers, ils ont raté leur procès. Les criminels les plus cons de l'histoire vous ont amusé manifestement, monsieur Bauer, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Alors
bonjour,
c'est vrai que j'ai parcouru, parce qu'on peut piocher évidemment dans ce livre, même s'il y a beaucoup de personnages, on s'y retrouve, puisque c'est quasiment par page à chaque fois une histoire différente de celles et ceux qui n'ont pas toujours été très malins, malins. Ce sont des histoires que vous avez recueillies par, j'allais dire, par Ouï-dire, par la presse, par des confrères à vous. Comment vous avez procédé, monsieur Bauer?
D'abord, c'est le volume 2. Il y a eu un premier volume qui était les criminels les plus cons tout court, qui était au moment de leur interpellation, car ils étaient déjà extrêmement créatifs. Là, c'est la suite. C'est quand ils arrivent au tribunal et que ils sont face à leurs juges, à leurs avocats. Il y a toute une série de personnages complémentaires aux criminels qui peuvent être eux-mêmes extrêmement inventifs en matière de conneries. Alors dans le cas précis, en fait, il y a beaucoup de rapports de presse, vous savez, des brefs d'audience. Et puis, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il y a même des recueils très anciens qui sont totalement véridiques. Et donc, je n'ai pris, à quelques exceptions près, que des histoires vraies et vérifiées, sauf celles qui étaient tellement belles que, bien que je ne puisse pas les vérifier, j'ai voulu les garder.
Par exemple, ce jeune homme interpellé en 2015 en possession de 4 grammes de résine de cannabis. Vous pouvez expliquer, raconter cette histoire ?
Alors, il y en a plusieurs. Je suppose que c'est celle où il explique que il les a trouvés dans sa voiture et qu'il attendait quelqu'un qui revienne les chercher. Il y en a une autre exactement du même genre, où l'avocat lui dit « Non mais en fait, vous ne consommez pas de cannabis », et auquel le suspect répond « Non, non, je fais aussi de la cocaïne et de l'héroïne ».
C'est génial.
Il faut toujours se méfier de son avocat, et les avocats peuvent être aussi très dangereux.
Il y a aussi celui qui vient porter plainte parce qu'on lui a volé son cannabis.
Ah oui, oui, ça marche très très bien.
Alors ce qui est amusant parfois, c'est pas forcément ceux qui sont, on va dire, les accusés ou les criminels, ça peut être l'avocat ou les témoins. Par exemple, cette histoire qui m'a beaucoup amusé du médecin légiste à qui l'avocat dit « Docteur, combien d'autopsies avez-vous pratiquées sur des morts ?» Alors le légiste dit « Toutes, avec les vivants, c'est beaucoup trop sportif. »
Il y en a une autre du même genre où l'avocat demande au légiste « Mais vous avez pris le pouls ?» Non. « Vous avez vérifié les yeux ?» Non. Mais comment saviez-vous qu'il était mort? J'avais son cerveau dans un bocal sur mon bureau.
Non, mais c'est vrai que c'est assez amusant. Les répliques sont parfois drôles au procès. L'avocat qui dit « La date de conception supposée de l'enfant est le 8 août. »« Oui, » dit le témoin. « Et que faisiez-vous à ce moment-là ?» Il lui a dit «
Je concevais.
» Alors, il y a celle-ci qui n'est pas très, très, comment dire, sympathique pour l'avocat, mais que j'aimerais, à moins que vous la connaissiez de tête, mais c'est à Boston que ça se passe, un interrogatoire au tribunal. Et là encore, c'est le docteur qui a pratiqué l'autopsie qui doit répondre. Docteur, avant de pratiquer l'autopsie, avez-vous cherché un pouls? Non. Avez-vous vérifié la pression sanguine? Non. Avez-vous vérifié la respiration? Non. Est-il possible que le patient ait été en vie lorsque vous avez commencé l'autopsie? Non. Comment pouvez-vous en être sûr, docteur? Parce que son cerveau, ça vous l'avez dit, était posé sur mon bureau dans un bocal. Mais il y a une contre-chute. L'avocat dit, je vois, mais le patient aurait-il pu être encore en vie malgré tout? Et le témoin répond, oui, il est possible qu'il ait été en vie et qu'il ait été avocat.
Ah, pas mal.
C'est génial.
Pas mal.
Vous aviez oublié la chute, monsieur Bauer.
Ah, mais je vous l'ai laissée, elle est tellement belle.
Vous les racontez entre vous, entre criminologues, monsieur Bauer?
Non, moi je les avais mis de côté pendant longtemps, ne sachant pas très bien quoi en faire, et ça avait permis de faire le premier ouvrage, parce que j'avais cette pile dans mon bureau que mon éditeur qui est toujours en train de fureter en se demandant ce qu'il va bien pouvoir arriver à me faire faire, avait dit non mais ça va être très bien, et donc ça avait fait la première. Et donc du coup j'ai mis de côté depuis 2020 tout ce que je voyais passer, mais qui était un peu différent et qui était plutôt la deuxième partie de l'histoire, c'est-à-dire celle où on est directement au tribunal et plus dans la poursuite, l'interpellation, la recherche.
Une dernière pour la route, hein, on va laisser à nos auditeurs les autres, parce qu'il faut en découvrir dans votre livre, les criminels les plus cons de l'histoire. C'est ce type qui quand même a donné des coups de pied et a mordu un policier. Et devant le tribunal, il dit, écoutez, j'avais des chaussons, il n'a pas dû avoir mal. Et il dit, en plus, je l'ai mordu, mais j'ai plus de dents. Donc, écoutez, on a les excuses qu'on peut trouver. C'est pas toujours facile de se défendre, au fond. Mais ça donne des livres amusants. Monsieur Bauer publie les criminels les plus cons de l'histoire au tribunal, cette fois. Effectivement, c'est le tome 2. C'est toujours chez First Edition, qui trouve des bonnes idées pour faire travailler les auteurs, n'est-ce pas, monsieur Bauer?
Absolument, mais qui fait rire aussi les gens dans une période où on est plus inquiet qu'autre chose. Donc, un peu d'humour dans un monde de brut, c'est ce que vous faites tous les jours avec vos invités.
Eh ben, merci, Alain Bauer. C'était le livre du jour, les criminels les plus cons de l'histoire. Un anniversaire pour monsieur Flageolet qui habite Besançon. Hervé Flageolet.
Oui.
C'est pas son anniversaire à lui, à monsieur Flageolet.
Mais c'est un peu sa fête tous les jours quand même.
il va peut-être toucher 300 euros. Manquerait plus que ce soit son anniversaire. Ce serait la fin des haricots. Non, écoutez, monsieur Flageolet.
Et on fait péter le champagne.
Ah non, écoutez, monsieur Flageolet n'a rien à voir avec la date du 15 mars. En revanche, je vous demande de retrouver celui qui est mort le 15 mars 44 de 23 coups de poignard.
Georges Mandel?
Non.
Philippe Henriot?
Non plus.
Eh merde.
Chez lui?
Et qui est... Ah non, bah oui, c'était chez lui.
Non, mais ça peut être dans la rue.
Il est mort le 15 mars 44 de 23 coups de poignard.
Est-ce que c'est pas assassiné par la milice?
Une affaire criminelle ou bien c'est juste...
Oh, souvent.
Non, mais.
Est-ce qu'il s'est fait assassiner?
Est-ce que c'est un rapport avec la guerre?
Par la milice. Il s'est fait assassiner par la milice.
La milice, non, mais.
La résistance.
Mais ils étaient plusieurs, en tout cas, pour lui donner les 23 coups de poignard.
Oui, c'est pas une idée.
C'est un milicien qui a été assassiné.
La résistance.
C'était en France?
Non plus, c'était pas en France.
Ah oui, il y a ça aussi.
C'était dans un livre?
Comment ça, dans un livre?
Ben, ça aurait pu être une histoire.
Ah, une fiction? Non. C'est une histoire vraie qui a été tuée de 23 coups de poignard le 15 mars 44.
Quelqu'un dans un livre express.
Ah putain!
Agatha Christie.
Jules César.
Mais c'est pas 19. C'est Jules César, mais oui.
Jules César! Bonne réponse, François Berléand et Paul Alcarat qui venaient.
C'est pas 1944.
Mais c'est 44.
J'ai jamais dit 1944.
Mais non, mais nous, on a pensé
Jésus-Christ.
Ça.
Et oui, c'est avant Jésus-Christ. Et c'est un 15 mars, le 15 mars 44.
Les îles de Mars.
Que Jules César, effectivement, a été tué. Ça, c'est pareil. Comment on peut être sûr que c'était un 15 mars?
C'est les îles de Mars. On le sait parce que c'était la fête.
C'est-à-dire?
Les îles de Mars, c'est ce qu'ils fêtent un peu.
Ah oui,
début
on savait parce qu'on savait que le samedi d'après, il y avait le Milan San Remo.
Ouais.
Et qu'on allait changer d'heure à quel moment?
C'est comme ça.
C'était le Rome San Remo. Ouais.
Qu'ils ont réussi à identifier l'affaire. Attention, la question suivante est très difficile. Il s'agit de retrouver le nom de deux architectes. Deux architectes à qui on doit le style Empire.
Ah.
Vous connaissez leur nom à l'un et à l'autre. On leur doit les façades de la rue de Rivoli. Ils ont travaillé sur le palais du Louvre entre 1802 et 1812. C'est eux qui aussi ont restauré le palais de l'Élysée. Les Tuileries, d'ailleurs, ils avaient pour projet de réunir le Louvre et les Tuileries. Ce sont deux des architectes parisiens les plus connus de l'époque. Non, et c'est vrai que l'empereur avait nommé l'un des deux premier architecte de l'empereur, mais ils travaillaient toujours à deux. L'un et l'autre avaient leur nom souvent associé, même si leurs rues dans Paris, à l'un et à l'autre, sont dissociées.
Ah.
Quel est le nom de ces deux architectes à qui Paris doit beaucoup?
Laurent Diot, Barillet
et
Grédy.
Non, ça c'est du théâtre.
Brongniart,
Roux-Combaluzier.
Non.
Cartelier.
Ledru et Rollin.
Il y en a même un qui a un théâtre, pour tout vous dire.
Ah bon?
Récamier.
Non, je veux dire, il y a un théâtre qui est dans la rue qui porte son nom et c'est le nom de l'architecte en question.
Michaudière,
non.
Athénée.
Le Corset.
C'est pas un architecte.
Récamier.
Récamier, non.
Splendide.
Splendide, non.
Deux architectes.
Alors, il y en a un qui est mort à 86 ans. Hein, quand
ah,
même,
c'est ça, bah, ça, ah, ça oui, aide.
Qui a été premier architecte de Napoléon.
Ranelagh.
Non, Ranelagh, non. C'est pas un architecte. Et c'est celui qui, effectivement, a une rue qui porte son nom. Et comme il y a un théâtre dans cette rue, le théâtre porte le nom de la rue, donc il porte le nom de l'architecte.
Mathurin.
Mathurin, non.
C'est un théâtre qui est toujours ouvert.
Ah, bah oui, bien sûr. Oui. Je ne sais pas si vous y avez joué.
Il y a Charles Garnier, mais
c'est... peut-être Monsieur Palmade y a joué.
Donc c'est eux qui ont fait la cour carrée du Louvre, alors.
Oui, exactement, la cour carrée du Louvre.
Stade de France, Parc des Princes. Je cherche les trucs où j'ai joué.
Je cherche...
Je
rêve
pas trop.
Le Carnegie Hall.
Non, mon frère.
Zénith.
Mais non. Enfin, alors, il y en a, ils s'appelaient... Je vais vous donner leur prénom. Mais tiens, si. Allez. Ouais. Charles et Pierre.
Fontaine.
Pierre Fontaine.
Pierre Fontaine, le théâtre Fontaine, rue Fontaine, porte le nom d'un architecte. Pierre Fontaine, vous y avez joué, Pierre.
J'ai joué la pièce Le Comique.
Eh bien, vous voyez, je le savais, je connais vos carrières par cœur, aux uns et aux autres. Mais attention, là, on en a que la moitié. Vous avez trouvé Pierre Fontaine, mais comment s'appelle l'autre? Charles, alors. Charles. Alors.
Bataille, Fontaine et Bataille.
Non.
Charles Bataille.
Et ils sont enterrés ensemble, enfin ensemble, pendant la tombe. Mais ils sont tous les deux, Pierre Fontaine et Charles Truc, là.
C'est Charles Truc.
Charles Truc.
Au Père Lachaise, vous voyez.
Ah bon?
Je suis en train de me demander quand même si l'un et l'autre, ils n'étaient pas.
Homo.
Ah oui, ensemble, parce que quand même, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de taureau. Enfin, vous voyez, mais Pierre Fontaine et Charles Truc.
Dans le même caveau?
Oui, quand même, là.
Charles Lavaux.
Ah, ils sont dans le même caveau?
Non, ils ne sont pas dans le même caveau.
Non, l'un au-dessus de l'autre.
Ils étaient du bâtiment, vous voyez.
Charles
non, parce que je regarde, effectivement, il n'y a pas de descendance. Donc, je me dis quand même, si on me mettait qu'ils avaient été mariés, qu'ils avaient eu des enfants, je me dirais, bon, bah non, on se fait
oui,
des
idées. Oui, on s'aurait pas empêché. Hein,
oui, mais là, alors là, pour le coup, il y a vraiment tous les soupçons, parce que je ne leur vois pas ni de femmes, ni d'enfants. Donc, à mon avis, quand même...
Ah, Charles Breteuil.
Entre deux dessins... Bretonneau,
Gaillot, Charles Gaillot.
Non mais ils travaillaient
c'est ça,
tellement.
Il
n'y a pas de sexe là-dedans.
Bien,
faut pas voir le mal partout. Hein.
Est-ce que c'est un nom de...
Ils ont aussi refait le château de Malmaison pour Joséphine de Beauharnais. Vous voyez.
Ah oui. Charles Lapage.
Ils
Charles
dessinaient
Gabriel.
Chaque détail, y compris le mobilier, de la table de nuit au chandelier,
oh là là,
en passant par les papiers peints et les tentures.
Ah ben bah, ça.
Ah non, ils travaillaient bien. Oh là là. Bon, ben bah voilà, on donne 300 euros.
Ah bah Charles non, 150. BHB, Charles
on a trouvé un.
Non, mais 150.
Déjà, Pierre Fontaine, je voulais quasiment donner. Est-ce que quelqu'un a le deuxième? C'était Charles Percier, le deuxième. Je suis désolé pour leur famille d'avoir fait leur coming out aujourd'hui, leur outing. Mais Percier et Fontaine ont toujours travaillé ensemble. Ah, une question qui va faire plaisir à Valérie Mérès, parce qu'elle aime qu'on parle cinéma. Et ce film n'a jamais pu se faire. Un film qui devait s'appeler L'un contre l'autre. Un film qui aurait dû se tourner en 1982. Le tournage, en tout cas le coup d'envoi du tournage, était prévu pour juillet 1982. L'un contre l'autre, qui devait être réalisé par Pierre Granier de Fer, ne s'est jamais fait. Pour quelle raison?
Ah ben parce qu'il y en a, il y a un des acteurs qui est mort.
Oui, oui,
il y a le suicide de Patrick Devers. Suicide de Patrick Devers.
Non, Devers. Non.
Romy Schneider.
C'était pas Jean Gabin.
À cause du décès de Romy Schneider.
Ah merde.
Bonne réponse de Pierre Palmade. Si on en parle, c'est parce qu'il y a une...
Légende.
Eh oui, il y a une exposition dont RTL, en plus, est partenaire à la Cinémathèque. Vous avez le temps, hein, ça commence demain, le 16 mars, mais ça va jusqu'au 31 juillet à la Cinémathèque française. Romy Schneider, La Grâce Inflexible, c'est le nom de cette exposition. Alors, il y a des photos, évidemment, des documents, des films. Voilà, il y a tout sur Romy Schneider, mais ça me permet évidemment de poser une question supplémentaire. Quel est le dernier film?
La Passante du Sans-Souci.
Oh non, mais là, quand même, il est fort.
Oui, oui,
on aurait pu le trouver. On allait le dire.
La Passante du Sans-Souci, nom du réalisateur.
Il y avait Michel Piccoli dans ce film, non?
Rufio.
Oui, Jacques Rufio.
Jacques Rufio, bonne réponse de Valérie Mérès.
C'est Elie Moon.
Il y avait Romy Schneider, Michel Piccoli, Gérard Klein. Et Elie Moon n'a fait que répéter ce qu'a dit Valérie.
Il y avait même Francis Huster, je crois, non?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait Francis Huster. Vous voulez que je vérifie?
Il y a Franck Ferrand aussi.
Il y a Piccoli. En tout cas, il y a Jacques Martin. L'animateur télé Jacques Martin, c'est un des rares rôles de Jacques Martin. Moi, je ne l'ai même pas vu, La Passante du Sans-Souci. C'est bien, vous me le conseillez? C'est le dernier film de
Romy. Pas un grand souvenir.
Si vous voulez vous flinguer,
c'est pas le meilleur, franchement.
C'est pas le meilleur, franchement.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'elle marche dans la rue et puis elle sourit. C'est la passante du sans souci.
C'est du sans sourire.
Ah, vous m'avez bien résumé le film. Une question sportive maintenant pour Karen.
Avec Romy Schneider.
Ah non,
on va tout faire.
On oublie Romy Schneider.
Milan Sorremo.
Non, 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 non. C'est du tennis maintenant.
Ah
oui, parce que quand même, on a.
Ah bah, Gaël Monfils quand même.
Qui a battu Medvedev.
Eh oui, eh oui. Dans le match France-Russie, il arrive qu'on gagne quand il s'agit de tennis.
Ouais, mais il a des raisons un peu perso. Hein.
Qui ça ?
Gaël, mon fils.
Ah oui, pourquoi ?
Ukrainien. Sa femme est ukrainienne.
Ah oui, bon, c'est vrai.
Eh oui, donc ça le
mais
ça
c'est pas motivé.
Je ne savais pas, vous m'apprenez quelque chose.
Mais j'ai lu ça ce matin.
Ah bah bravo. Voilà.
Mais c'est pas France-Russie.
Comment ça, c'est pas France-Russie ?
Non, parce que la Russie n'a plus le droit de faire de compétition.
Non, mais Medvedev est russe, tout de même.
Le mec d'en face.
Très francophone.
Oui, mais...
Mais Medvedev, en tout cas, a perdu. Bravo à Gaël, mon fils. Surtout que Medvedev en perd, pour autant, le titre de numéro 1, vous vous rendez compte, mondial qu'il était. Il sera resté numéro 1 pendant 3 semaines seulement. Et justement, l'équipe, aujourd'hui, voilà la question, elle arrive. L'équipe nous donne le classement des plus courts séjours à la première place mondiale. Il faut savoir, par exemple, que Medvedev, donc, est resté 3 semaines. L'Espagnol Carlos Moya est resté seulement 2 semaines numéro 1 du classement ATP. Et puis, vous avez un autre joueur de tennis qui, lui, est resté seulement 1 semaine. C'est le plus petit record dans le sens où personne n'a fait pire, en quelque sorte. Si, il y a les Français qui n'ont jamais été numéro 1 mondial une journée.
Ah, j'allais dire Yannick Noah.
Mais là, vous avez un tennisman qui est resté seulement 1 semaine.
C'est Villas.
C'est la plus petite durée de quelqu'un qui est resté numéro 1.
Chang, non.
Chang, non.
Il était un Américain ?
Alors, pas américain, non.
Anglais ?
Anglais, non.
Argentin ?
Argentin, non.
Sud-américain ?
Curten ?
Non, Curten, non.
Un Espagnol ?
Espagnol, non.
Australien.
Australien, oui.
Newcombe ?
Ah non.
Oh bah non.
Rafter.
Patrick Rafter. Bonne réponse de Paul Alcarat. Il nous fait tout, le cinéma, le sport. Aïe. Je vais essayer de trouver un domaine qu'il ne connaît pas.
Surtout le tennis, en fait.
Le sexe. Je sais pas, le curling.
Pardon. Elle a rien dit.
Alors, il est sourd, en plus.
Elle a rien dit.
On se demande pourquoi.
Mais j'en connais plus que toi, attention.
Le sexe ? Ah ouais ?
Qu'est-ce que vous connaissez sur le sexe ?
Oh bah, moi, j'observe. Je pratique le candolisme, monsieur.
Ah !
Non, c'est pas vrai, mais j'analyse très bien, j'observe bien, j'ai pas besoin d'être dans le feu de l'action.
Bah vous matez alors ?
Non.
Vous êtes sur YouPorn régulièrement ?
Non.
Mais est-ce qu'il y a des dates sur YouPorn ?
Non, je suis pas sur YouPorn du tout.
Quelle catégorie vous prenez dans YouPorn ?
Non, je regarde pas.
Bah, regardez, il rougit, c'est mignon !
Mais arrêtez, monsieur Ruki, enfin !
Oh, mais enfin ! Mais que sans blague !
Catégorie. C'est Ségolène Royal,
d'autiste.
Il prend la catégorie polytechnicienne.
Bah, la cochonne polytechnicienne, ça doit avoir son...
En quelle année a démarré ?
Écoutez, je vais me renseigner. J'ai jamais vu de polytechnicienne, je vais aller me voir. On va aller voir ça avec Pierre.
Ah, Pierre ne regarde pas les mêmes catégories.
Dans Polytechnique, Yannick...
Historique.
Ouais. Non mais il n'y a pas de honte, Paul, on y va tous sur YouPorn.
Bah, non mais l'année dernière, monsieur.
Moi non plus.
Oh, y avait
lui c'est Milan Sanremo,
ça y est, j'étais sûr que ça allait tomber sur moi.
Ellie, avouez que vous y allez de temps en temps.
Oui, bien sûr.
Ah, voilà, bon,
évidemment,
aussi bon, Pierre, voilà, oui.
Quand j'ai des invités à la maison.
Qui est qui ? Qui fait quoi ? À vous de jouer sur RTL.
Xavier est au téléphone, Xavier Patard. Bonjour Xavier, à Villemomble. On ne se moque pas du nom de
bonjour
monsieur
Xavier.
Patard.
Bonjour Xavier.
Bonjour.
Mais c'est le changement d'heure qui embête François.
Patard.
Avec monsieur Patard.
Il a entendu ça toute sa jeunesse à l'école, monsieur Patard, n'est-ce pas, Xavier ?
Déjà, une fois, monsieur Semoun, il s'est moqué de moi.
Ah, c'est pas vrai.
Ah, bah, c'est pas mon genre, en plus.
Ah, non.
Faut dire qu'il est pas tôt, hein.
Bon, bah, allez-y, hein.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Xavier ?
Bah, je travaille à la SNCF.
Ah, bah,
voilà.
Qu'est-ce qui se passe ?
20 minutes de retard,
vous l'avez fait exprès.
Ah, le pauvre.
Ah, il y a des carrières toutes tracées, quand même, hein.
Tout va bien.
Alors attention, il va s'agir maintenant. Là, c'est gagnable. Il suffit de miser sur la bonne grosse tête.
Ah, j'ai bien envie de tenter le petit Paul. Paul est le camarade.
Ah oui, voilà. C'est logique.
Alors attention, c'est
pas très en forme.
Tout est sur la tête de Paul Elkarat. On va d'abord éliminer Elie Semoun, si vous le voulez bien.
Antisémite.
Monsieur Semoun, qui est Amélie de Montchalin?
Amélie de Montchalin, c'est la fille de Paul de Montchalin. Non, je pense que c'est une sportive, à mon avis.
Ah oui, c'est la ministre de la fonction publique.
Bah, vous m'enlevez les mots de la bouche.
Elle vient d'annoncer une revalorisation des salaires pour les fonctionnaires.
Ah, elle est gentil.
Pour une fois qu'une ministre annonce une bonne nouvelle, Amélie de Montchalin vous élimine, monsieur Zemmour. Alors attention, Valérie Mérès, pouvez-vous me dire, chère Valérie, qui est Francis Joyon?
Francis Joyon, c'est un cuisinier qui fait beaucoup de plats...
au rhum, alors, parce que
navigateur.
Il vient de s'inscrire pour la route du rhum, qu'il a déjà gagné il y a 4 ans, Francis Joyon.
Et il emmène des plats préparés.
C'est un navigateur, Francis Joyon, Valérie, lui, vous êtes éliminé.
Il est plus tout debout à tirer.
Monsieur Palmade.
Oui, oui, oui.
Qui est Pierre Palmade.
Monsieur Palmade, qui est Marina Ovsianikova.
Elle n'a pas changé de nom, hein?
Ah non! C'est tout. Marina Ovsianikova.
Ukraine, Russie.
Eh bien, ça fait partie du gouvernement ukrainien.
Je peux tenter un truc?
Non. Ah, tu dis, oh, du dent, Paul!
Mais je suis même pas sûr!
Une fois qu'on me laisse une chance.
Je sais qui c'est.
Ah, mais tout le monde sait qui c'est, mais Pierre a eu un dîner galant hier soir, donc on imagine bien que ça a dû traîner jusqu'à ce matin.
Pas être trois.
Non, galant, non. Galant, ça finit tôt.
Marina Ovsianikova, c'est la jeune femme qui a brandi une pancarte pendant le JT russe à 21h. Elle a brandi cette carte.
Deux mots.
Très courageux. Arrêtez la guerre. Stop war. Il n'y avait plus de deux mots. Parce qu'elle expliquait sur tout le panneau que les infos russes mentaient au peuple russe. À mon avis, aujourd'hui, elle doit être enfermée. Ovsianikova, elle mérite bien qu'on retienne son nom parce que c'était vraiment très courageux de sa part. De passer comme ça derrière la présentatrice du journal en plein direct. Attention, c'est au tour de Paul Elkarat. Xavier, sur qui vous avez misé?
Difficile quand même pour lui.
Ah oui, un difficile.
Mais je suis, je lis rien.
C'est pour le monsieur. Pour
qui est Antoine Dupont?
Bah, le capitaine de l'équipe de France de rugby. Ah
oui. Exact, c'est gagné. Facile. Ah bah, faut suivre le rugby.
Ah mais c'est bien, alors, bravo.
C'est pas si mal, bravo mon polo.
Bah, je suis pas le rugby aussi.
Michel Bernier.
Oh là, oui, parce que quand même, on répond.
À... Michel, qui oui. était William Hurt.
Oh bah, c'était un grand acteur américain.
Il est mort.
Qui vient de décéder.
Oh, merde.
Il vient de mourir.
Vous apprenez vraiment les nouvelles ici, vous.
Ah, oui, oui.
Alors, il était génial. Comme son nom l'indique, il a fait une crise cardiaque.
Le jour de votre décès passé, ça vous a...
Ah, c'est mon nez mort.
Donc, c'est ça, hein.
Bravo, Michel. Vous restez dans la course. Monsieur Berléand, qui est Arthur Baucher.
Alors, Arthur Baucher est un entraîneur de...
De rugby.
Un skieur qui vient d'avoir 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques en e-sport à Pékin. Vous êtes éliminé. Un duel final.
Voilà.
Michel Bernier.
Hola.
Contre Paul Elkarat. Xavier, il y a un vrai suspense, hein, Xavier.
Ah oui, ouais.
Maman contre fiston.
Ouais.
Alors, on va commencer par le fiston, alors.
Oui.
Qui est...
Tout simplement.
Olivier Roustin.
Olivier Roustin. Plus.
Roustin, oui, pardon.
Roustin. Ouais, c'est un jeune couturier français.
Oui, de quel...
Oh, il doit avoir la trentaine, il est métis.
Non, ce que je vous demande...
Ah bon?
Non, dans quel...
Non, c'est non, mais... quelle maison de couture?
Balmain.
Exact. Et c'est lui qui va signer... La prochaine collection, Jean-Paul Gaultier, puisque Jean-Paul Gaultier a pris sa retraite.
Je l'ai vu, il est invité du 20h30 de Laousse. Il a de très grosses lèvres, hein, c'est vrai.
Mais oui, t'as raison. Non, mais c'est une description, c'est vrai.
En tout cas, il est très talentueux.
Très court.
Et il a été choisi par Gaultier pour faire sa nouvelle collection, puisque Jean-Paul Gaultier a pris sa retraite il y a maintenant déjà deux ans.
D'oreilles.
Alors attention, Michel.
Oh là là.
C'est la pression pour vous.
Oui, terrible.
Qui est Francis Pousse.
Francis Pousse, c'est le mec qui a inventé les gants.
L'autostop.
Il y a eu un André Pousse qui faisait du vélo.
Oui, c'est le
mais, qui était non, comédien aussi. Mais Francis Pousse, c'est le président des distributeurs de carburant qu'on voit un peu partout en ce moment.
Non.
Francis Pousse élimine Michel Bernier. Xavier, vous êtes content?
Ah, très content.
Mais je ne vous ai même pas dit ce que vous deviez gagner.
Ah bah j'exulte, oui. Mais oui, je ne sais pas ce que j'ai gagné.
Les jours à une mangade. Xavier, vous allez pouvoir choisir ce que vous avez gagné, puisque vous aurez le choix entre 50 clubs Bellambra.
Oh là là.
Bellambra, le numéro un des clubs de vacances en France, pour flâner, se balader, se ressourcer. Il y aura forcément un club Bellambra idéal.
Évidemment.
Bellambra, c'est le plus Bellambra du monde, c'est leur slogan. En famille, entre amis, dans les plus beaux endroits de France.
Vous avez l'air inspiré, Laurent.
Animation, sport, activité, restauration, logement chaleureux, club, enfants, vous avez des enfants, Xavier ?
Non.
C'est valable pour 4 personnes, vous vous rendez compte un peu ?
Ouais, ouais.
Demi-pension pour 4, valeur du séjour, 2000 euros, Xavier.
Super.
Et en plus, j'imagine que vous ne payez pas le train ?
Non, bien sûr.
Eh ben alors, vous pouvez aller où vous voulez.
C'est l'occasion d'aller en avion.
À vous de choisir okay. Le plus bel Bellambra du monde.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Pierre Palmade, Valérie Mérès, Michel Bernier, François Berléand, Élise Semoun et Paul Alcarat. Pour Madame Le Borgne, qui habite Sainte-Marie-la-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, le 3 juin 1968, qui Valérie Solanas a-t-elle tenté d'assassiner ?
Andy Warhol.
Andy Warhol, bonne réponse ! Eh oui.
Elle est jobard, cette fille.
C'était une militante féministe, Valérie Solanas, et effectivement, elle a tenté de tuer Andy Warhol ce jour-là, en vidant le chargeur d'un pistolet sur lui dans le hall de la factory, là où travaillait Andy Warhol. Il a survécu, mais quand même, il en a toujours pâti, puisqu'il a porté ensuite, jusqu'à la fin de ses jours, un corset. Il a été grièvement blessé suite à cet attentat auquel il a échappé en 1968. Il est mort en quelle année, Andy Warhol ?
87.
Parfait, merci. Donc quand même, il a tenu longtemps
19
ans,
avec
son corset. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a un documentaire sur Netflix actuellement. Bon, alors attention, c'est long. Hein. Ça fait 7 heures. 6 épisodes sur Andy Warhol. Ah ouais. Mais il paraît que c'est très, très réussi. Et avec, alors ça, c'est encore plus étonnant. Avec la voix off du documentaire qui est la voix d'Andy Warhol. Parce qu'ils ont reconstitué par un outil d'intelligence artificielle la propre voix d'Andy Warhol qui commente lui-même sa propre vie.
Donc ils lui font dire des phrases qu'il n'a jamais dites.
Exactement. En tout cas, si vous voulez voir ce documentaire, c'est sur Netflix, 7 heures sur Andy Warhol. Je pars en Italie, si vous voulez bien, pour Julien Ganchou, qui habite Vincennes, dans le Val-de-Marne. Les Italiens sont les plus gros producteurs de têtes de chat. Mais de quoi s'agit-il ?
Tête de chat.
C'est des pâtisseries. C'est comme
les
langues de chat, mais les petits...
Ah non,
c'est vraiment un rapport avec l'animal.
Aucun. Ah bah avec l'animal.
Non, mais je veux dire, est-ce qu'on voit l'animal dans cette production ?
Moi, je vois pas vraiment. Mais
est-ce
du vin,
ce sont c'est une pâtisserie ?
Ce n'est pas une pâtisserie.
Ça se mange ?
Ça se mange.
Ah, c'est une de la charcuterie ?
Non plus. Ah. D'ailleurs, les plus gros producteurs sont les Italiens et le pays deuxième plus gros producteur, c'est l'Égypte.
C'est un dessert ?
Un dessert, non.
C'est du riz ?
C'est salé ?
Du riz, non plus.
C'est sucré ?
Et si je vous en parle, c'est parce qu'outre le documentaire sur Netflix sur Andy Warhol, il y a un documentaire là sur France 5 ce soir à 21h. Un documentaire quand même de 52 minutes sur les têtes de chat.
Ah, mais c'est pas les truffes blanches ?
Les truffes, non.
Alors, bon.
Tête de chat, c'est une catégorie. Il y en a d'autres qu'on appelle autrement, évidemment.
C'est un champignon ?
Un champignon, non.
Si c'est encore du céleri rémoulade,
non.
Non,
mais c'est pas si loin.
C'est un légume.
Ah oui, c'est un légume.
Une courgette.
Des olives.
Alors d'ailleurs, est-ce que c'est un légume ?
Ce sont des racines.
J'ai un doute. Est-ce que c'est un légume au sens
avocat ? Les tomates.
Alors au sens légume.
Carotte.
Mais
c'est un fruit ?
On va considérer que c'est comme un légume. C'est une plante, en tout cas.
Ah, c'est d'accord.
Du céleri.
Brocoli.
Du brocoli, non.
Du cresson.
Du cresson, non. Et ça n'est pas étonnant que ce soit les Italiens qui en soient le plus gros producteur.
Ah, des brocolis ?
Les brocolis, non.
Est-ce qu'il y a
ils en mettent dans la pizza ?
Il y en a dans les pizzas.
Le capre ?
Oh, l'origan !
L'origan, non.
Oh, le basilic ?
Non plus.
C'est pas la mozzarella ?
Ah, la mozzarella.
Très grand légume.
Très grand légume.
La mozzarella d'Égypte, c'est bien connu.
Alors, moi, je vais te dire.
Ça pousse très bien.
J'ai planté des mozzarelliers dans
le
j'ai planté des buffles.
Il y a même des pizzas.
Alors, tu sais quoi, il faut attendre l'automne pour que les mozzas tombent.
Ouais.
Mais tu mets les tomates en dessous.
Mais tu les fais pousser.
T'as ton entrée,
tu les fais pousser avec des, ah non, avec des tomatiers.
Et surtout la mozzarella égyptienne.
C'est des poivrons.
Des poivrons, non.
Des nèfles.
Ah, des piments.
Des nèfles.
Ah, on en produit en France aussi, mais on n'est pas les plus gros producteurs.
Ah, oui, oui.
Ah, des kiwis.
Des kiwis, non.
Des olives. C'est des petites fleurs et on prend le. Oh merde.
C'est l'Espagne après l'Égypte qui
est le safran.
Troisième
fleur de courgette.
Non.
Le safran.
Le safran.
Ça, c'est une épice ou
c'est ça
Alors, c'est pas une épice du tout.
C'est un légume.
Ça et ça se mange tout seul aussi.
Comment s'appelle la pizza où il y a l'ingrédient principal?
On peut le manger.
Faut aider ça. Coluche adorait ça.
Des artichauts, des cœurs d'artichauts.
Des artichauts. Ah, oui. Bonne réponse d'Elise et Moon. Et oui.
Petits artichauts.
L'artichaut, un cœur à prendre, titre Le Figaro aujourd'hui. Il y a tout un documentaire de 52 minutes sur les artichauts aujourd'hui.
C'est long. C'est le temps, le temps de les éplucher.
Ah oui, c'est la fameuse phrase de Coluche, vous vous souvenez, le seul plat que quand t'as fini de manger, t'en as plus dans l'assiette que quand t'as commencé. C'était Coluche qui disait ça.
Mais moi, je croyais que c'était breton, les artichauts.
Moi aussi.
Ah bah, évidemment.
Les gros artichauts.
La Bretagne reste le Camus de Bretagne.
Oui, parce que alors ça, c'est des petits artichauts, en fait, en Italie.
Le Camus de Bretagne, c'est le plus gros des artichauts.
Ah, voilà.
Mais la France et la Bretagne n'est pas le plus gros producteur d'artichauts. C'est l'Italie, ils en utilisent beaucoup dans les pizzas.
C'est vrai.
Des artichauts, les Italiens.
Et alors, comment ça s'appelle artichaut en italien?
Ah, bah ça s'appelle tête de chat, comme je viens de vous le dire.
Non, mais en italien.
Ah, bah testa del gatto. Comment c'est? Capo del gatto. Non, mais il y a le blanc d'Espagne, il y a le petit violet, évidemment aussi.
Il y a le bleu de Prusse.
Le violet de Venise. Moi, alors, je dois avouer que je n'ai jamais vraiment. Dans une pizza, ça passe. Mais manger un artichaut, je voyais mes parents faire ça.
Ah, j'adore.
J'adore l'artichaut.
J'adore ça.
Épluché.
Oh, mais c'est bon avec une très bonne vinaigrette.
Moi, j'aime bien parce qu'en plus, comme ça, je prends du temps à le manger.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Pendant ce temps-là, je mange pas autre chose. Voilà.
C'est aussi un jazzman, artichaut. Il faudra
après artichaut, bien sûr.
Mais le document.
Et
ils ont dû se tromper, d'ailleurs, à mon avis. Sur France 5, il y a un type à la direction des programmes qui a dit faites-moi un documentaire sur artichaut.
Oui. Et là, ils se sont trompés.
Il y a une stagiaire qui a mal noté.
C'est ça.
Et on se retrouve avec un 52 minutes sur les têtes de chat.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Bonjour Delphine à Argentan dans l'Orne.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes.
Bonjour Delphine.
Bonjour.
Qu'est-ce que je suis contente d'être avec vous.
Oh et nous Delphine, alors depuis le temps je me disais mais quand est-ce qu'elle va appeler Delphine d'Argentan.
Oh là, le faux cul.
Qu'est-ce que vous faites Delphine?
Eh bien écoutez, je suis comptable.
Ah très bien.
Voilà, je suis sur mon lieu de travail, là, actuellement.
Ah, bah,
je vous écoute.
Ils vont être bien faits, les comptes, alors.
Ah, bah, je vous écoute toujours toute la journée. RTL est avec moi.
Est-ce qu'on a fait les bénéfices cette année?
Ah oui, toujours avec moi.
Voilà. D'abord, on écoute la radio.
On peut trafiquer les comptes, en plus.
En écoutant RTL, on fait toujours des bénéfices, Delphine. Et vous, en tout cas, votre bénéfice, ça va peut-être être un voyage, un magnifique voyage à Saint-Malo, à l'hôtel Spa Le Nouveau Monde. Saint-Malo face à la mer, monsieur.
Bien sûr.
Berléand.
Oh bah, avec pas seulement, c'est le quand même.
Saint-Malo, imprégné des grands hommes, donne une touche d'exotisme à la cité des corsaires grâce à cet hôtel 4 étoiles magnifique. Le Spa Le Nouveau Monde est un enchantement à tous les étages. C'est en plein pied d'ailleurs. Alors,
ça change tout. Hein.
Piscine à jet sous-marin, hammam solarium, une parenthèse de bien-être, un restaurant qui s'appelle Les Sept Mers, un dîner vous est déjà réservé dans cet hôtel. Allez voir sur le site internet hôtellenouveaumonde.fr et déjà vous allez rêver à cette invitation au voyage, Delphine.
Ah, ça c'est sur Arte, ça.
Oui, ça fait envie.
Vous connaissez Saint-Malo ou pas?
Oui, un petit peu. Et puis j'adore la Bretagne.
Ah bah alors écoutez, très bien. Delphine, ce voyage c'est pour vous à condition de retrouver la bonne information parmi les fake news données par mes camarades. On va commencer par Pierre Palmade.
Vladimir Poutine a demandé à la Chine de lui livrer des armes. Une livraison de plusieurs milliers de pangolins devrait arriver prochainement à Moscou.
Élie Semoun.
La poule qui a pondu l'œuf qui a fini écrasé sur la tête d'Éric Zemmour vient d'être adoptée par Marine Le Pen.
Valérie Mérès.
En pleine guerre en Ukraine, Emmanuel Macron apparaît avec un sweat des forces spéciales françaises. De son côté, en pleine flambée des prix du carburant, Jean Castex est apparu en slip pour être en raccord avec les Français.
François Berléand.
Anne Hidalgo a décidé d'apporter son soutien à l'Ukraine. En tant que maire de Paris, elle a annoncé qu'elle allait faire livrer plusieurs centaines de trottinettes électriques aux Ukrainiens.
Michel Bernier.
D'après un dernier sondage Ipsos réalisé après la publication de ses affiches « Le courage de faire », Valérie Pécresse ne ramasse pas.
Paul Aycarat.
Alors, violence en Corse, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé la fin du port de la cagoule pour lutter contre le coronavirus.
Ah, c'est génial ça.
Alors Delphine, qui a dit la vérité d'après vous?
Pour Pierre Palmade, Poutine et puis les pangolins, ben, j'y crois pas trop ça.
Ah, écoutez,
il a demandé des armes peut-être, mais pas des pangolins.
Oui,
en tout cas.
Ça, effectivement, vous avez raison d'éliminer les pangolins. Si les Chinois envoient des pangolins aux Russes, ce serait vraiment une information étonnante.
Oui, mais j'ai dit avec sincérité.
Alors sinon, il y avait Paul avec les cagoules, c'est ça?
Oui, oui, et le coronavirus.
Moi, j'ai la poule.
La poule, ah oui, la poule qui est adoptée par Marine Le Pen. Ouais. Donc, non, ça, j'y crois pas non plus, mais désolé, Ellie.
Moi, j'y croyais.
Il vous en reste deux, Berléand et Bernier.
Alors, Michel, j'ai pas trop compris l'histoire de Valérie Pécresse.
Recommencez. Voulez-vous que je vous la redise?
Oui, je veux bien que vous me la redonniez, oui.
Alors, d'après un dernier sondage Ipsos réalisé après la publication de ses affiches « Le courage de faire », Valérie Pécresse ne ramasse pas.
Ne ramasse pas.
Ramasse pas de... courage de faire, c'est-à-dire ouais. faire popo.
Ouais, d'accord, oui. Bon, bah ça, j'y crois pas non plus. Donc, il resterait Anne Hidalgo avec les trottinettes.
Non, il reste Berléand.
Non, il reste Berléand.
Oui,
Je vais le redire, mais vraiment... alors, Anne Hidalgo a décidé d'apporter son soutien à l'Ukraine en tant que maire de Paris. Elle a annoncé qu'elle allait faire livrer plusieurs centaines de trottinettes électriques aux Ukrainiens.
Oui, ça me tente pas trop, mais ouais, je vais aller vers François Berléand.
Oh non !
Ah bon ?
Alors écoutez, Dieu sait qu'elle est mal, Anne Hidalgo.
Ouais.
Mais de là à livrer des trottinettes électriques aux Ukrainiens...
Ah bah non.
Mais... Donc c'était Michel ?
Ben oui, bien sûr. C'est vraiment des affiches qui existent. Le courage de faire, c'est le dernier slogan de Madame Pécresse. Bon, bah, d'après un dernier sondage réalisé après la publication de ses affiches « Le courage de faire », Valérie Pécresse ne ramasse pas, ça veut dire que, en fait, elle chute dans les sondages, elle ne ramasse pas. Vous voyez ce que
ah
je
veux dire? Ah oui, ça, je savais qu'elle chutait sur les sondages, mais voilà. Bon, j'ai pas vu ses affiches.
Vous êtes fait piéger, Delphine.
Oh, ouais, je suis désolé
ça,
parce que.
Vous avez été trop fort pour moi.
Ah ben oui, non, mais là, c'était pourtant.
Je suis désolé, mais j'étais très contente de jouer avec vous.
Ah ben nous aussi, Delphine, vous savez quoi? Vous réessayerez une autre fois?
Oui, bien sûr. Et puis. J'ai été contente d'avoir Paul Elkara parce que ma fille est fan, elle la suit dans les 12 coups de midi.
Ah oui, ah oui.
Ouais, elle aurait été très contente d'être à ma place.
Quel âge est là votre fille?
Elle a 19 ans.
Ah, dites donc Paul.
Elle est fan de Paul.
Sûr, mais j'en étais sûr. Vous
savez qu'il peut donner 12 coups à minuit aussi.
Oh là là, c'est tellement mauvais.
Bah écoutez, on va envoyer une photo. Et c'est lui qui va apporter la montre RTL, Delphine.
Mais
j'ai autre chose à foutre.
Attends, tu sais parler aux femmes, franchement.
Non, mais enfin, soyez un peu aimable, Polo.
C'est pas parce qu'elle n'est pas une date qu'on ne peut pas lui parler.
Vous voulez rencontrer une jeune femme, vous avez envie d'avoir une sexualité un peu débordante.
Non, mais ça y est, parle à ma place, hein, allez-y, hein, mais tant pis. Hein.
Enfin, on sait bien, on est tous pareils, enfin, voyons. Enfin.
Ah oui, non, mais vous, oui, mais pas moi.
Bon, bah, c'est moi qui vais venir avec la montre, alors.
Mais ça vous intéresse pas, monsieur Ruquier, enfin.
Ah, bah, voyez qu'on y vient.
Allez, je t'accompagne.
Non, mais
Laurent,
vous,
c'est
je parle
bon.
Pour vous, vous parlez à ma place, dites-moi.
Bah parce que j'essaie d'organiser des petites rencontres.
Oui.
Comment elle s'appelle, votre jeune fille, Delphine?
Emma.
Emma.
Oh, c'est
Emma,
beau. C'est
19 ans, Emma, franchement.
Mais bah, écoutez,
si Paul veut lui donner une petite photo, bah, elle sera contente.
Ah, déjà, on peut commencer par la photo.
Vous le voulez nu?
Ouais.
Non, mais
moi, dans mon premier album, j'avais une chanson qui parlait d'Emma.
Ah oui.
Emma, c'est elle et moi. Emma, c'est elle et moi.
C'est plus que c'est dire, vraiment.
Ça a marché?
Mais
ce qu'il y a de bien, c'est que tu t'en rappelles.
C'est peut-être pas la chanson qui a le mieux marché.
Non, je crois pas.
Ben écoutez, c'est gentil de sa part.
On envoie une photo de Polo à Emma, Delphine, et pour vous, une montre RTL. On vous embrasse toutes les deux.
RTL, la valise.
1063 euros dans la valise RTL. À qui on va donner la valise aujourd'hui ? À Valérie Mérès, à Michel Bernier.
À Paul, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu.
À Élie Semoun.
J'aime bien parler avec les gens.
Ah oui, allez, monsieur Semoun, je vais vous donner la valise.
Très bien.
N'ai pas eu l'occasion d'aller dans le public pour offrir 100 euros aujourd'hui.
Je suis frustré.
Alors peut-être vous allez offrir 1063 euros, deux nuits d'hôtel à Paris, un ballon de foot Adidas, un mini lave-vaisselle Bob et une barre de son Denon. Voilà pour le contenu de la valise. Monsieur Palmade, voulez-vous donner un numéro de 1 à 20 ?
Avec plaisir, le 1.
Le 1. Élise Thomas, elle habite Saint-Dié.
Ah, Élise en plus.
Dans les Vosges.
Élise Thomas.
On appelle dans les Vosges à Saint-Dié, ça a sonné chez madame ou mademoiselle Thomas.
Allô ?
Oui, bonjour Élise, comment vas-tu ? Est-ce que tu reconnais ma voix déjà ?
Ouais, c'est Élise Simon ?
Oui, bien joué ! Bravo !
Je me rends compte que si
on se mariait, ouais, Élise Semoun. Comment allez-vous, Élise ?
Pas de problème.
Très bien.
On veut bien se marier avec toi.
Vous n'êtes pas déjà mariée, Élise ?
Non, pas du tout.
Ah, vous êtes célibataire.
Il faut qu'elle se marie avec Case Moon. Des où ? Ça fera.
Bon, écoute, tu me casses pas mon cou, toi, s'il te plaît. Bon, Élise, comment allez-vous ? Où est-ce que vous êtes ? Dans quelle région ?
Ben, je suis dans les Vosges.
Je veux dire, la ville civilisée.
Il a Alzheimer, hein.
Épinal.
Ben, Saint-Dié, c'est très connu, Saint-Dié.
Intéresse-toi.
Est-ce que vous avez le contenu de la valise ?
Eh ben, malheureusement, non, pas du tout.
Oh. Et on peut pas tout avoir, Élie et la valise.
Et comment ça se fait, ça, Élise ?
Ben, parce que j'ai pas encore fini d'écouter les podcasts et que j'étais au travail, donc, j'ai pas noté la valise.
Vous avez du retard sur les podcasts.
Ouais, j'ai du retard sur les podcasts.
Qu'est-ce que vous faites comme métier, alors, pour travailler autant ?
Eh ben, je suis infirmière puéricultrice.
Ah, bah oui, alors là, effectivement. Élise, vous voulez une montre RTL ?
Ben, avec plaisir.
Bah oui, puisque.
Et surtout, ce que j'aimerais, si c'est possible, ce serait une photo dédicacée de toute l'équipe des Grosses Têtes.
Oh, bah, bien sûr, on va faire ça.
Et deux délits.
Écoutez, on n'en a pas encore de nous tous réunis, mais on a une partouze prévue lundi prochain.
Eh ben, super.
Passez nous voir.
On me dit rien,
avec plaisir.
Moi. C'est mieux, peut-être.
On vous dit rien parce que ça se passe chez vous.
Ah oui, celle du lundi.
Ouais, celle du lundi, oui. Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de photos. Ça n'existe pas. Parce qu'en fait, la difficulté des Grosses Têtes, c'est de réunir toutes les Grosses Têtes, vous voyez, Élise. À chaque fois que j'essaye, il y en a toujours un ou deux qui ne peuvent pas, qui ne viennent pas. Alors voilà, donc voilà pourquoi j'envoie régulièrement une photo de moi tout seul.
Il n'y a pas de problème.
Et on va la signer.
Envoyez-en plusieurs, comme ça, ça fera l'impression que c'est nous tous.
Non, mais Élise Semoun va vous envoyer une de ses photos. Lui, il en a des. Vous avez des photos d'artistes
tout à fait,
que vous distribuez.
Avec plaisir.
Que vous vendez même à la fin de vos spectacles.
Ah oui, en tant que juif, c'est tout à fait normal. Évidemment, de diriger le monde.
Alors donc, des photos, une montre RTL, quoi d'autre, Élise ?
Elle fait crédit sur.
J'ai déjà joué avec vous. Hein, donc, il y a quelques années, j'avais gagné un voyage, c'était sympa. Alors, une montre RTL et des photos, c'est déjà super.
Ah bah, c'est déjà
pas mal. Surtout, continuer à nous faire rire comme ça.
On va essayer. Vous avez perdu 1063 euros. Alors, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie.
Non, un peu quand même.
Et quatre autres choses. Et puis, j'ajoute pour ceux que nous appellerons demain, c'est toujours utile, un Becherel. Mieux, trois Becherel. Le coffret des trois livres Becherel de la langue française. Trois ouvrages incontournables sur la langue française, puisque le coffret contient la conjugaison pour tous, la grammaire pour tous et l'orthographe pour tous. Pour en savoir plus sur la langue française, vous pouvez aller évidemment aussi sur le site becherel.com. Mais c'est toujours bien d'avoir un Becherel sur soi.
Oui. Hein,
toujours, surtout quand on fait des tweets.
Ah, parce que vous trouvez que les...
Ah, mais c'est dingue.
Hein. Ah oui, oui.
Ah, c'est les fautes d'orthographe.
Ah, mais ça, alors là.
Alors, un petit Becherel et puis après on tweet, voilà.
Le coffret 3 Becherel dans la valise RTL, c'est pour les prochains gagnants de la valise et puis pour vous, on vous envoie très vite la montre. D'accord, Élise ?
Merci beaucoup.
On vous embrasse. Bonne fin de journée. Une question pour Thierry Billard, qui habite Ploeren dans le Morbihan. Et la question concerne quelqu'un. Tout à l'heure, on a parlé de Thérèse Trent d'Arby, qui a changé de nom. Il y a quelqu'un qui demande lui aussi. Alors, non pas à changer de nom, mais est-ce qu'on ajoute maintenant le nom de sa mère quand on parle de lui ? Il veut qu'on ajoute derrière son nom, sous lequel on le connaît habituellement, la Barre Lestier. car sa maman s'appelait, c'était son nom de jeune fille, Labarre-Lestier, Carmen Labarre-Lestier. Mais qui donc veut donc qu'on ajoute le nom de sa mère désormais quand on parle de lui ?
Le fils de Jean Gabin ?
Pas du tout.
C'est un acteur qui demande ça ?
Pas un acteur.
Ah,
un
chanteur ? Le coiffeur Éric Zemmour ?
Pouf !
Non.
Non.
C'est un chanteur ?
C'est pas un chanteur. Même si je crois qu'il a fait un disque, mais c'est pas un chanteur.
Un écrivain ?
Un écrivain, non.
Un scénariste ?
Un scénariste.
Un réalisateur ?
Non, non.
Journaliste ?
J'ai appris ça dans le Parisien ce matin. Vous voyez, si vous aviez lu le Parisien, vous le sauriez.
Un homme politique.
Le 1-1-1 qui est nananananana.
Un homme politique.
A décidé de coller le nom de sa mère biologique à celui de son père.
Biologique aussi ?
Ne comprenant pas pourquoi le nom des mères disparaissait sur celui de leurs enfants. Et c'est vrai qu'on le connaît sous le nom de son père.
On le connaît grâce à la télé ?
À la télé, oui.
Il est le fils de quelqu'un de connu ?
Mais pas seulement.
Il est le fils de quelqu'un de connu ?
Non, 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 c'est lui qui est devenu très, très célèbre. Il est mondialement célèbre.
Ah, c'est un footballeur ?
Un footballeur, non.
Est-ce que c'est un homme politique ?
Un rugbyman.
Un homme politique, non. Rugbyman, non.
Un sportif, un sportif.
Un sportif, oui.
Oui.
Tony Parker.
Tony Parker, non.
Un footballeur ?
Un sportif toujours en activité.
Un tennisman ?
Un tennisman, non. Et désormais, donc, les commentateurs devront dire « Nananana, Labarre-Lestier ».
Oh là là, oui. là.
Donc c'est un sport qui se
commence. Un sport de balle.
Ah, vous voulez que je fasse vraiment le nombre de syllabes, monsieur ?
Le nombre de pieds.
Si ça vous aide, monsieur Berléand, je peux vraiment faire la, oui. la en fonction du nombre de syllabes.
Ah oui.
Parce que là, j'ai fait la au hasard.
Ah oui, parce que j'ai...
Je vous vois compter sur vos doigts.
Ah oui, c'est pour ça.
Bah oui, il lui en reste.
La. Là.
Oh là là, mais c'est énorme.
Ça, je l'ai refait, là.
Ah bon?
Ah oui, d'accord. Vous avez fait le prénom aussi?
Vous ne faites pas du morse, Laurent.
Vous avez fait le prénom?
Là.
Il a fait le
prénom. Là, oui. Là. Veut qu'on ajoute Labarre-Lestier derrière.
Alors, c'est un rugbyman?
Est-ce que c'est un sport de balle?
Un sport de balle, non.
Ah, alors c'est pas...
Un cycliste?
Un cycliste, non plus.
Martin Fourcade.
Ah non, mais comment s'appelle un coureur automobile ?
Oui, madame.
Ah.
Romain Grosjean.
Non.
Alors, qui est mondialement...
Pierre Gasly.
Sébastien Loeb.
En France.
Comment il s'appelle le petit jeune, là ?
J'ai pas dit qu'il était français.
Sa mère, Carmen, la mère Carmen.
C'est Fernando Alonso.
Alonso, non.
Alain Prost.
Il serait temps qu'il demande, alors.
C'est un Espagnol, monsieur.
C'est vraiment sur la fin qu'il a réalisé que ce serait bien.
Quel nom
de sa mère, Alain Prost.
C'est un Espagnol ?
Ah non, c'est pas un Espagnol.
C'est un Français ?
Un Brésilien ?
Un Français ?
Ah non, c'est pas un Français.
C'est un Brésilien ?
Non, c'est pas un Brésilien.
Verstappen ?
C'est pas Verstappen, l'autre.
Ah, c'est un Allemand.
Hamilton.
Lewis Hamilton, bonne réponse. Eh oui.
Alors, comment ça va faire à Hamilton ?
Eh bien, désormais, il faudra l'appeler Lewis Hamilton Labarre-Lestier.
Eh bien, il va perdre.
Il a perdu l'année dernière déjà.
Ah bon, ça va.
C'est contesté, comme on dit. À penser qu'il aurait pu gagner, monsieur Berléand ?
Oui.
Eh bien, ça reprend dimanche prochain, la saison de F1. Et le pilote britannique compte bien avoir sa revanche sur Verstappen. En effet, il a terminé deuxième l'an dernier. Mais bon, ça s'est fait ric-rac, comme dirait l'autre.
Oui, oui.
Il y a contestation. N'est-ce pas, monsieur Berléand ?
Il y a contestation.
Enfin, le champion du monde, c'est Verstappen.
Ben, absolument.
Lewis Hamilton s'appellera donc désormais, comme sa maman Carmen, Lewis Hamilton Labarre-Lestier. Une autre question.
Moi, il faudra m'appeler Elise Moon Malka, alors, à ce moment-là.
Pourquoi ?
C'était le nom de jeune fille de ma mère.
Oh, c'est mignon.
Malka.
Ah oui.
Voilà. Allez, je vais relancer ma carrière. Bon.
Eh ben, c'est pas comme ça qu'elle est repartie. Hein.
Non, ça, c'est sûr. Vu le silence que ça a fait après, ça s'appelle un bide.
Mais tu n'as pas besoin de ça.
Non,
pour Estelle Dumont, qui habite Gruffy, en Haute-Savoie, une question culturelle. J'aimerais que vous retrouviez le nom de ce militaire, diplomate et dialectologue français, ardent défenseur de la paix et du droit des peuples. C'est un linguiste à qui on doit de nombreux essais de grammaire, quelques mots sur le dialecte espagnol, des notes sur la classification des dialectes de la langue d'oc, et aussi 15 ans de l'histoire des Balkans. De qui s'agit-il ?
Des militaires, j'en connais.
Ah oui ?
Ouais.
Alors allez-y.
Il est décédé ?
Ah oui, il est décédé.
Lévi-Strauss ?
Il est mort en 45 à Paris.
Alors, Stéphane.
Eric.
Oui, non, François. Mais on ne te demande pas la liste.
Mais en 1945 cette fois, Laurent.
À 1945. Ah.
Et comment nous, pauvres incultes, on pourrait le connaître?
Ah bah oui, mais enfin, il y a quand même Polo qui est là.
Oui, est-ce pas... qu'il est mort fusillé?
Ah non, il n'est pas mort fusillé. Bah,
est-ce, qu'il en quoi, en quoi... est-ce qu'il a une rue?
Voilà, en quoi son nom est resté?
Ça aurait été salaud de le fusiller parce qu'il est mort à 85 ans. Alors,
oui, franchement. Ah oui, dis donc, il a fait une guerre de vieux.
Donc c'est la guerre de 14 qu'il a fait.
Il suffisait d'attendre, vous voyez.
Il a fait la guerre de 14?
Ah oui.
Ah oui, oui, oui.
Et c'est un écrivain, du coup.
Il est né sous le Second Empire. Il a vécu sous la Troisième République et il a donc connu trois guerres contre l'Allemagne.
Ah, mais dis-donc,
sans jamais...
Ah, bien planqué, hein, parce que pour mourir si vieux...
Non, parce qu'il a jamais cessé, justement, de plaider pour la paix entre les peuples et le respect des identités culturelles.
C'est Maurice Daunet ?
Non, non, non. Il est né en 1860, il est mort en 1945.
Ah bah alors...
Il a participé à la bataille des Dardanelles avec, vous voyez, des militaires. Il est allé jusqu'à Constantinople.
Ah oui, donc c'est Conan, oui.
À Thessalonique.
Il s'appelle pas Ferdinand ?
En 1913.
C'est pas lui qui a écrit Capitaine Conan ?
Non, c'est lui qui a défendu les intérêts de la Bulgarie après et pendant la Première Guerre mondiale. Oh, il se pose un peu partout.
Ah, c'est Papillon. Il s'appelle Papillon ?
Non, il s'appelle pas Papillon.
Bah, Mouche, il s'appelle Mouche. Il s'appelle Mouche. Ouais, ouais.
Mouche.
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 Mouche. Mouchard. Mouchard.
Mouche Rabier.
Mouche.
Mouche. Mouche.
Mouche. Mouche. Mouche. Mouche. Ça commence par Mouche.
Ça finit par Mouche.
Commandant Mouche.
Scaramouche.
La rue du commandant Mouche.
Oh, qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse ?
Trimouche.
Camouche.
Scaramouche.
Scaramouche.
Non, non, non.
Scaramouche.
C'est rare quelqu'un qui a connu trois guerres.
La Mouche.
Ah oui, mais c'est
contre l'Allemagne quand même.
Alors Trimouche.
85
Munch.
Ans.
Munch. Non.
Comment vous dites?
Trimunch.
Non, non.
Munch.
Non, non.
Munch.
Il y a des mains qui vont peut-être se lever, oh allez savoir. Ah non, personne ne semble le connaître ici.
Victor Lamouche.
Ah non, bah vous voyez, c'est dans le livre de Yann Moix que j'ai trouvé son nom.
Ah bah oui,
Yann Moix aurait été là, il fait son grand retour bientôt aux grosses messes. Yann Moix, ça nous fera encore un omniscient de plus. Enfin, pourquoi je dis encore?
Calamouche. Calamouche, Irma Lamouche, oh, Irma Lamouche.
Bateau-mouche.
Bateau-mouche non plus, non, 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 non.
Bégon-mouche.
Papier-tu, mouche.
Pas une main qui se lève.
Bégon-mouche, bégon-vert.
Et c'était Léon Lamouche.
Bon, on n'était pas...
Léon Lamouche.
Ah ouais.
Ardent défenseur de la paix et du droit des minorités à disposer d'eux-mêmes. C'est important en ce moment de parler de Léon Lamouche.
On dirait un mafieux.
Léon Lamouche, mort à 85 ans, qui a connu... trois guerres contre l'Allemagne et qui a toujours défendu la paix.
Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL.
Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Ravi de vous recevoir. Vous
allez... Merci de m'accueillir.
Oh ben, je vous en prie. La voix est bien déformée. Il est très content qu'on l'accueille.
Ah, bonjour, monsieur l'invité ou madame
bonjour.
L'invité.
Oh, c'est un,
j'ai l'impression
c'est un
que vous êtes monsieur
homme.
L'invité.
C'est un homme.
Vous êtes un homme ?
Oui.
Merci.
Oui.
Oh là,
oui.
On n'entend pas, lui.
Mais ça...
Oui
ça... Non, c'est oui.
Okay. Il y a Berléand qui est sourd.
C'est Berléand qui rage.
Il est un peu sourd.
Vous avez déjà travaillé avec François Berléand, invité mystère ?
Non.
Non, jamais.
Ah. Vous aimeriez ?
J'aurais aimé. J'aimerais.
Donc vous n'êtes pas chanteur ?
Ça n'est pas fini.
Ah, oh, j'adore cette voix, oui.
Elle est bien, celle-là.
Vous êtes chanteur ?
On a changé la voix parce que moi qui le connais bien, on le reconnaissait un peu trop avec la première voix.
Ah, oui.
Est-ce que vous avez un pseudonyme ?
Non.
Est-ce que vous avez des enfants ?
Oui. Deux.
Est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un d'aussi connu que vous ?
Oh, même de plus connu que moi.
Est-ce que vous êtes connu pour
bien
être...
Bien plus connu sur deux générations.
Vous êtes connu pour être drôle ?
Non, je suis connu pour être beau gosse.
Voici un premier indice musical.
Une avionette volava por la région de la Guaje. A ver lo que se encontraba, no como andaba la cosa. Desde el aire divisaron las parcelas de Mendoza.
Las parcelas de Mendoza.
Ah, est-ce que ça... oui.
C'est un bon indice, n'est-ce pas, invité mystère?
Ben moi, je ne m'étais pas reconnu.
Ah oui, mais ça vous dit quelque chose, non, Mendoza,
oui, bien
quand
sûr,
même.
Bien sûr.
Ça a un rapport avec un titre, éventuellement.
Ah,
hein.
Ça a un rapport avec un titre, comme vous dites.
Moi, j'ai trouvé tout de suite. Est-ce qu'on vous a vu dans une série récemment ?
Oui.
Valérie Mérès, elle, vous a en tout cas identifié. Voici un deuxième indice.
Et des autres, on le distinguait à la casquette qu'il portait.
la casquette un peu de côté. On le voyait se balader, ça lui faisait une drôle de tête, sa casquette. Ses copains dans tout le quartier lui criaient en le voyant passer, hé, est-ce que la nuit tu couches avec ta casquette?
Vous connaissiez cette chanson, Invité Mystère?
Absolument pas, mais elle me définit bien.
Eh ben oui, hein, vous avez souvent une casquette, il faut bien dire. Et c'est même le nom que vous
portez. On se verra tout à l'heure.
C'est même le nom que vous portez de temps en temps, effectivement. Ouais. Michel Bernier vous a reconnu, ça ne m'étonne pas. Les deux actrices savent déjà qui vous êtes.
Vous avez tourné avec une des deux ou avec les deux?
Aucune des deux.
Aucune des deux.
On est dans un film tous les deux, mais on n'a pas tourné ensemble, qui va sortir au mois de mai.
Ah oui, c'est vrai, tout à fait.
Absolument. Paul Elkarat propose Vincent Desanières, c'est pas bête, mais vous n'êtes pas Vincent Desanières.
Il y a une casquette.
François Berléand vous a identifié, bravo François Berléand.
Ah bah, qu'est-ce qu'il est bon ce François.
Voici encore un indice. Est-ce que vous connaissez cette musique, Invité Mystère?
Évidemment, et cet indice me file les larmes aux yeux.
Ah oui, parce que c'était un feuilleton qui s'appelait Papa Poule. Et c'était un tonton à vous, votre oncle qui jouait.
Ah bah oui.
Et oui, qui portait le même nom que vous.
Oui, mais tout à fait. Ouais. Oh là là, c'était bien.
Un grand type.
Ça fait un peu une dizaine d'années que vous êtes très connu.
Très connu, je crois pas.
Hein. Enfin, que vous êtes connu.
Si, si, connu.
Oui, qu'on reconnaît mon visage. Voilà.
Pierre Palmade, Élie Semoun et Paul Elkarat cherchent.
Vous avez l'âge de Laurent Ruquier.
Voici un autre indice.
Ce n'était que trois fois rien. Trois fois rien. Ce n'était que trois fois rien. Trois fois rien. Ce n'était que trois fois rien.
Ah, c'est Patricia Carli qui chantait trois fois rien.
Vous êtes dans un film qui s'appelle Trois fois rien.
Oh, qu'il est malin, ce Semoun.
Ah oui, merci.
Vous voulez que je vous fasse entendre Pierre, Élie et Paul?
Oui.
Son ex-femme, elle chantait avec lui ce jour-là.
Si l'amour flou souffle sur ma joue, si je le laisse glisser jusqu'à tes lèvres derrière mon cou, quand tout s'enfuit,
quand tout se loue,
quand les lumières s'éteignent sur tes passions, sur mes atouts, je ne vois plus que l'amour flou.
Désolé.
Comme une dernière prière, un dernier verre, un dernier rendez-vous.
Alors elle, on a reconnu sa voix peut-être, c'est Romane Bouringer, mais lui alors, évidemment lui, tout le monde ne le connaît pas encore au fond, vous voyez, il y a encore du progrès.
C'est pas grave.
Il y a du progrès à faire en notoriété, Invité Mystère.
Je m'en fiche, je ne cherche pas la notoriété,
et on va y
cherche des amis.
On va y participer, bah venez ici, ouais, on veut bien être amis avec vous, nous en tout cas.
Ça va, oui.
Alors, notre Invité Mystère, c'est
Philippe Rebaud.
Philippe Rebaud qui nous rejoint. Philippe Rebaud était bien notre Invité Mystère. Trois fois rien, c'est le titre du film qui sort demain, mercredi. On est mardi aujourd'hui, oui, c'est bien demain. Un film réalisé par Nadège Loiseau avec Philippe Rebaud, avec Côme Levin et Antoine Bertrand. Un trio de sans-abri SDF qui vont pas le rester longtemps parce qu'ils ont la chance de gagner au loto. Oh, pas une énorme, énorme somme, mais une bonne somme pour des gens qui sont à la rue, on va dire.
Oui, non mais c'est pas une petite somme, hein, 200 000 balles. Non mais c'est ça qui fait l'élégance de ce film.
C'est pas le gros lot, c'est pas des millions, ça que je veux dire.
Voilà, c'est ce qui en fait une comédie sociale. Si on avait gagné 26 millions, ça ferait une comédie.
Remarquez, ça aurait pas changé grand-chose, que ce soit plusieurs millions ou des centaines de milliers d'euros, puisqu'ils ne peuvent pas toucher effectivement cet argent pour une bonne raison, c'est que dans les banques et ailleurs, on vous demande une adresse, il faut avoir un appartement, mais pour avoir un appartement, il faut avoir un salaire.
Carte d'identité, il faut avoir plein de choses que.
C'est Kafka,
les gens...
quoi.
C'est Kafka, voilà.
Ah, on peut résumer ça
comme
ça.
Oui, on pourrait le dire comme ça.
Mais alors, sauf que les trois personnages sont un peu différents. Hein. Ils sont tous les trois sans-abri, ils se retrouvent, ils sont au bois de Vincennes, hein, si ma mémoire est bonne. Il y a quand même une dame plutôt gentille qui va les aider à trouver un appartement.
C'est ça, il y a quelqu'un qui les regarde un peu gentiment, enfin, qui les envisage et qui devient une bonne âme et qui les aide.
Le film, si vous avez vu la une du journal Le Parisien aujourd'hui, est encensé. C'est à la fois drôle, émouvant, on rit, on pleure. C'est tout ce que vous aimez.
Oui, je ne lis pas Le Parisien. Mais oui.
Bah oui, mais l'humain, ils n'en parlaient pas, ces cons-là.
Ouais, c'est ça. C'est marrant, quand même. Moi qui me revendique comme un mec de gauche, que la presse de droite nous encense.
C'est bon, toujours
c'est
comme
une blague,
ça.
C'est une blague.
Alors croyez-moi, c'est toujours comme ça.
Oui, je sais.
Ça, ne faut pas que vous comptiez sur les journaux de gauche.
Non, non, je sais. Cher ami. Mon Dieu, alors que je l'ai dit, je suis abonné.
À partir du moment où vous avez du succès, il ne faut pas croire, vous aurez les meilleurs articles dans Le Figaro et Le Parisien. Et il faut oublier Libé et l'Humanité.
Et c'est pas parce qu'on a une femme qu'on est dans les journaux féminins. Non plus.
Moi d'ailleurs, en tant que tennisman, j'ai eu un très bon article dans Miroir du cyclisme. En tout cas, c'est vrai que ces trois paumés, dont un Québécois d'ailleurs, je le dis parce qu'il est, je crois, Québécois d'origine, lui-même, le comédien.
Alors, soit il le joue et il le joue même hors champ, mais a priori, il est Québécois. Il s'appelle Antoine Bertrand et c'est un énorme acteur. Enfin, au-delà d'être Québécois, et c'est un type formidable et un acteur génial.
Alors, c'est peut-être même des trois celui qui a le plus envie de se réinsérer parce qu'il a une famille, lui.
Ça, on peut réfléchir à qui sont nos trois personnages parce que lui, il a envie de se réinsérer, il a une famille et tout ça. Et puis, on a le jeune joué par Comme Lévin qui, lui, veut consommer, croit que la vraie vie, c'est de consommer.
Alors et que ben, vous, au fond, ça vous allait pas si mal d'être...
Ben, je fais partie de la génération des clochards célestes.
C'est
on
ça.
On pourrait dire ça comme ça. Moi, je crois que mon mec aurait aimé être Kerouac.
On a entendu tout à l'heure, si on peut le réécouter, un générique de feuilleton, une série que les plus anciens, ceux de notre génération, connaissent, parce qu'on a regardé ça. C'était Papa Poule. Et donc, il y avait quand même quelqu'un qui était déjà dans le métier, dans la famille, alors.
Bon, on est plein de quelqu'un dans le métier, mais c'est Sadi, enfin, Sadi évidemment, mon oncle.
Ah non, mais je parle pas de la génération, je parle pas de Roman ou de Richard
Bourget. Non, je parle de Sadi.
Je parle dans votre famille Rebaud, alors.
Ben, il y a Sadi, il y a son fils Jérôme, qui est dans le métier, qui maintenant fait du doublage et tout ça, mais écoutez, ça m'émeut beaucoup qu'on parle de Sadi, parce que, au-delà d'un acteur, c'était un type extraordinaire, et que Papa Poule, cette série, a pris du sens, parce que c'est un, je sais pas comment je pourrais dire ça, c'était un grand humain. En fait, c'est ça qui a touché les gens avec cette série qui n'a fait que 6 épisodes, hein, ou 12, ou je
mais dont
sais
on
pas.
Se souvient.
Voilà.
Vous êtes casquette dans le film parce que les trois sans-abri ont chacun un surnom. Et ce surnom de casquette, ça vous va bien parce que c'est vrai que dans la vie, vous en portez aussi. C'est pas seulement
ouais,
pour
bizarre.
Le film. Franchement.
Oui, j'ai un problème de cheveux. Donc, c'est ça mon truc. Non, mais c'est. Oui, ça me va bien.
Vous n'avez pas envie qu'on vous voit sans cheveux.
Et puis, comme j'ai beaucoup été attaqué par les haters sur. Sur le net, enfin, sur, je sais pas comment on dit ça. Sachez que je me lave les cheveux régulièrement. Quand voilà. On m'attaque beaucoup sur ma saleté. Je suis moins sale que j'en ai l'air.
Bah, c'est-à-dire qu'on vous donne souvent aussi des rôles de paumé, de mec un peu à la marge, on va dire.
Comme disait Scorsese, on n'échappe pas à sa nature. Je suis un mec à la marge.
Oui, mais
donc
je suis sûr
pas,
que...
Je vais pas jouer un banquier. Ou alors, je serais un banquier, vraiment. Est-ce que vous viendriez dans ma banque, Laurent ?
Non.
On parle bien là. Ça m'empêcherait pas d'être banquier, mais...
Trois fois rien, sort demain. C'est une très jolie comédie sociale réalisée par Nadège Loiseau. Franchement, si vous avez envie à la fois de vous amuser et d'être ému par ces trois personnages, Trois fois rien, c'est un très bon titre, eh bien, courez demain dans les bonnes salles de cinéma pour faire connaissance avec comme on dit Lévin, alors comme Lévin, c'est ça, alors, Antoine Bertrand et Philippe. Et pareil, votre nom d'ailleurs, pour ne pas l'écorcher, on dit bien Rebaud ou Rebaud, comment on doit dire ?
C'est un problème de famille. Dans ma propre famille, il y en a qui disent Rebaud et d'autres qui disent Rebaud. Donc moi, je dis Rebaud.
L'amour de votre vie reste Roman Boringer, même si vous avez raconté.
J'ai encore une vie à vivre.
Hein, à la France entière.
Vous n'allez pas trop.
Non, mais je vous souhaite d'avoir votre.
Il m'en reste un peu. Donc ne bousillez pas
l'amour de votre ex-vie, ouais, alors, bon. Ou de votre ancienne vie, ou de votre
la mère de ses enfants.
Jusqu'à aujourd'hui. Bah non, mais vous avez raconté à la France entière.
Génial, évidemment, je peux le revendiquer.
Votre séparation à travers des murs mitoyens.
Le sépartement.
C'est quand même génial d'avoir pris ces deux appartements pour les enfants côte à côte et qui peuvent, ces enfants, passer d'un appartement à l'autre. Ça a donné un film trop bien, L'amour flou. Ouais. Et une série.
Et la série qui est hyper bien aussi.
Ah oui, allez voir la série sur Canal si vous pouvez. Et de temps en temps, vous chantez ensemble. On a entendu effectivement un extrait de cette chanson « Dernier rendez-vous ». Mais vous avez même chanté d'ailleurs dans « Thé ou café » chez Catherine Sellac à l'époque, la fameuse chanson des divorcés.
« On pourrait dans les premiers temps confier la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner, ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si c'est fichu entre nous,
La vie continue malgré tout.
Bon, ce serait pas du chanteur. Mais attends, hein.
Si, si, il y a du boulot, mais voilà, je dois dire que Romane a une voix extraordinaire et que je pense que c'est une des grandes chanteuses. Bon,
mais vous avez gâché l'affaire.
Qu'est-ce qu'elle chante faux, putain. Et moi, du coup, ça m'emmène à chanter faux. J'en ai marre de ce procès où on me dit tu chantes faux, mais non, c'est Romane qui chante faux, mais je l'aime. Non,
c'est dans quel film, Valérie Mérès, qu'on va vous retrouver avec Philippe Rebaud?
Ah, ça s'appelle Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon.
Mon Dieu, mais oui, c'est incroyable comme aventure, non?
C'est un film qu'on a tourné il y a trois ans.
Trois ans et en morceaux, et vraiment c'est une énergie qui est voilà. Dingue.
Et voilà. Ce film a eu des prix dans presque tous les festivals, et il sort au mois de mai.
Eh ben très bien, alors voilà. Au mois de mai.
On se reverra.
On se reverra. Vous êtes ici chez des amis, monsieur Rebaud.
Merci.
Philippe Rebaud, à l'affiche de Trois fois rien. Le film sort demain dans les bonnes salles de cinéma.